les mêmes histoires. Il est clair qu'il y avait certainement un certain nombre de fanatiques allumés, sans doute musulmans, sans doute arabes, sans doute armés de cutters dans les avions. Certainement, bien sûr. Bien sûr.
Des gens manipulés.
Mais comme tu dis, Antoine, voilà, la grande question, c'est qui dirigeait ces gens-là et qui les ont mis dans les avions.
Ce qui est intéressant, c'est de regarder le pédigré de la famille Bush.
Par exemple.
C'est un pédigré assez intéressant.
Question très simple. Question très simple. Si on part sur ce sujet, on pourra appeler aussi, quand vous voulez, Smaïn Bedrouni, et on peut continuer à tous les trois, parce que je crois qu'on connaît bien le sujet maintenant. Question toute simple, pour donner un petit peu le ton. Il y a aux États-Unis, parmi d'autres, une société qui compte dans le monde de l'armement, l'industrie militaire, qui s'appelle la société Carlyle. La société Carlyle est un groupe financier qui notamment possède d'autres activités comme les boissons Schweppes ou 7-Up, connues dans le grand public. Et Carlyle fabrique aussi beaucoup d'armes. Et dans la société Carlyle, il y a deux gros actionnaires, deux grosses familles d'actionnaires, parmi d'autres, membres du conseil d'administration. La première famille est une famille très connue, tout autour de la planète, elle s'appelle la famille Bush. Et il y a une deuxième famille qui a payé très cher son droit d'entrée pour avoir un siège au conseil d'administration du groupe Carlyle. Il s'agit de la famille... Allez, s'il vous plaît, laquelle ?
Allez. Bush.
Non.
Ah non, pas du tout.
L'autre, son pote.
Son pote.
Ben Laden.
D'accord.
Ok, vous avez compris ?
Ok.
Bon, ça c'est du réel. Ça c'est pas des histoires. C'est pas de la désinformation. C'est du réel simple.
Donc vous voyez toute la difficulté qu'on peut avoir à faire l'association, là, tout de suite, d'emblée.
Ah ouais, c'est pas facile.
Non.
C'est pas facile. Vous savez, le métier de psychosociologue est un métier qui... traite notamment, une discipline qui tente de traiter d'un point de vue à peu près scientifique les phénomènes de communication et qui s'intéresse de près ou de loin, selon les intérêts de chacun, notamment aux techniques de désinformation utilisées par toutes les armées du monde depuis la nuit des temps. La psychologie sociale en tant que discipline scientifique s'origine beaucoup dans les budgets de l'armée américaine, notamment. Il y a eu beaucoup de recherches en matière de dynamique de groupe payées par l'armée. Et en ce qui me concerne, je suis toujours beaucoup intéressé aux techniques de désinformation et à ce que je vais appeler la politique occulte et à l'histoire cachée. Je crois qu'aucune armée au monde ne dit la vérité. Et c'est sain d'ailleurs, c'est son métier. Les militaires sont payés pour mentir. Alors, plus ou moins habilement, plus ou moins efficacement, de manière plus ou moins cohérente, mais le métier de communicateur militaire, c'est comment je m'y prends pour vendre ce que j'ai à vendre sans qu'on s'aperçoive que la réalité est tout autre. Et tous les journalistes de guerre le savent, tous les journalistes qui travaillent avec les militaires le savent bien. Un militaire normalement constitué ment. Donc, à partir du moment où on a su ce qui se passait le 11 septembre, la vraie et seule et unique question à se poser, c'est qui est en train de parler ? Et qui parle de quoi ? Et dans quel but ? Et à quoi ça sert ? C'est ça les vraies questions.
Mais alors justement, quel serait précisément le dessin d'une telle sous-réalité ou sur-réalité, je ne sais pas, l'organisation d'un ordre mondial particulier ou ce serait simplement au service d'intérêts proprement personnels ?
C'est très compliqué tout ça. Vous savez, après-guerre, 1945, l'armée américaine a recruté, 35 000 soldats nazis. 35 000. On regarde l'armée américaine, la population américaine, 35 000, c'est pas beaucoup, mais 35 000, ça fait du monde quand même. Ces gens-là ont eu des petits, des enfants, des héritiers. Ça, c'est une chose. C'est un élément de la réalité. Un autre élément de la réalité, c'est l'histoire très particulière de la famille Bush. Monsieur George W. Bush dit dans un de ses livres qu'à la sortie de l'université de Yale, où il a fait quelques études, semble-t-il, il est rentré dans une société secrète. Si secrète, dit-il, si secrète en vérité que je ne peux rien en dire de plus.
C'est pas, je te coupe deux secondes, c'est pas à sa sortie de Yale, c'est à Yale.
À Yale, oui, tu as raison.
Il y a 15 personnes par an.
15 personnes par an, ouais. sont recrutés. Alors tout ça, ce sont des données de fait, encore une fois. Hein. Il suffit d'un petit peu travailler, et puis, puis de lire, et puis de vérifier, puis de recouper. Ce sont des données de fait qui sont aisément vérifiables, et avouées en plus, c'est ça qui est très drôle. Société secrète, qui a un nom très simple à retenir, en anglais, Skull and Bones, en français, Crâne et Os. Alors c'est assez savoureux, parce que c'est... J'allais dire, c'est sexy, cette histoire, ouais, c'est fascinant. Crâne et Os, l'insigne, le sigle de cette société secrète qui se réclame d'un folklore templier et maçonnique à la fois, comme un paquet de ce genre de sociétés secrètes, politico-affairistes et mystico-glandulaires pour être un peu méchant. Cette société secrète, Crâne et Os, a pour insigne une tête de mort avec deux tibias croisés derrière. C'est-à-dire la même chose que les Panzer Division de l'armée allemande nazie. C'est assez fascinant quand même. Et avec une idéologie derrière, qui est une idéologie guerrière, conflictuelle, sur le principe la race anglo-saxonne constitue l'élite de l'humanité. Je devrais dire... La race judéo-anglo-saxonne, parce que c'est ça leur idéologie, ces gens-là, constitue l'élite de l'humanité et nous avons une tâche et une seule, sauver l'élite de l'humanité. Alors, si sauver l'élite de l'humanité coûte 5 millions de morts, 3 000 morts, 50 millions de morts, nos problèmes. Nos problèmes puisque nous sommes l'élite de l'humanité. Et c'est ça qui est très difficile à comprendre, c'est que ces gens-là ne raisonnent pas comme vous et moi.
Pas du tout.
Les gens qui gouvernent, enfin les types qui sont dans la cabine de pilotage du vaisseau spatial Terre, parce que la Terre c'est un vaisseau spatial, hein, lancé à quelques centaines de milliers de kilomètres heure dans l'espace, enfin je veux dire des bêtises en termes de chiffres parce que je ne suis pas physicien, mais on est dans ces eaux-là. Ce vaisseau spatial a une cabine de pilotage et les mecs qui sont dans la cabine de pilotage sont des malades mentaux. Ce sont des malades mentaux et ils ne raisonnent pas comme vous et moi. Alors c'est ça qui est difficile à faire. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne qui contrôle ces malades mentaux-là aujourd'hui. Personne. Ils sont en autocontrôle complet et ils ont l'armement atomique entre les mains. Et ils sont en train de dégueulasser toute la planète. J'entendais ce matin à la radio, très normalisée, version France Inter, des gens très officiels, très normalisés aussi, qui parlent comme il faut, sortant de l'Organisation Mondiale de la Santé et exposant tranquillement que les cas de leucémie, de cancer avaient augmenté de plus de 100% en 10 ans en Irak et que les malformations congénitales, les monstruosités congénitales étaient dans une augmentation totalement affolante dans toutes les maternités irakiennes. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'armée américaine depuis 10 ans utilise des bombes sales, c'est-à-dire des bombes à uranium appauvri. Pas enrichi, appauvri. C'est-à-dire, en clair, de la poussière d'uranium qui va flotter et se reposer dans le sol et contaminer les plantes, les animaux et les êtres humains pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, sans doute plusieurs siècles à la fois. D'accord ? Ce ne sont pas des bombes atomiques, ce sont des bombes ordinaires avec explosifs sales. C'est fascinant. C'est fascinant parce qu'on est en train de fabriquer un hiver nucléaire par petites doses. Mais on y va, là. Mmh. On y va vraiment, quoi. On y va vraiment. Et ils vont recommencer. Ils vont recommencer. C'est-à-dire, en clair, c'est l'équivalent de Tchernobyl. Alors, il y a sûrement des proportions qui m'échappent, là, en termes d'équivalence.
Ouais,
hein.
Ouais.
Combien de Tchernobyl, combien de parties de Tchernobyl, combien de Tchernobyl, j'en sais rien, à chaque bombe de ce type-là. Mmh. Mais on est dans le même type de démarche.
Ouais, c'est-à-dire que sur la durée...
Sur la durée, on est dans le même genre de film.
Mmh.
D'accord ? Et aujourd'hui, la grande question, c'est comment on arrête cette folie-là ? Parce qu'il s'agit véritablement d'une folie. À l'échelle de l'espèce humaine, jamais l'humanité n'a fait un truc pareil. Jamais. 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 Pas même... Enfin, je veux dire, même 40-45, avec toutes les horreurs de la période 40-45, on est en train de dépasser ce qui s'est passé en 40-45. D'accord ?
Mmh, mmh.
On est en train de se préparer. C'est-à-dire que là, on est au moment où on commence à fabriquer les chambres à gaz. On est en train de faire la même chose. Et elles sont déjà fabriquées, et ça marche déjà, et c'est déjà en train de tuer. Et on ne voit pas, enfin on commence à voir, parce que les informations commencent à circuler, les scientifiques commencent à hurler, les médecins de l'OMS commencent à dire c'est quoi cette histoire, parce que évidemment en plus ils ne disent rien, ou le moins possible.
Mmh. Alors Antoine
mais
Schuller...
Je m'énerve. Là.
Non, oh, non.
Bah, si, je m'énerve parce que il faut qu'on donne beaucoup d'amour aux fous pour les arrêter. C'est ça la grande difficulté. Vous savez, c'est un sacré boulot qu'on essaye de faire là. C'est de dire à ces militaires fous-là qu'on les aime vraiment beaucoup, mais qu'on va leur mettre la camisole de force. Quoi. C'est-à-dire qu'on... Et tout le travail, c'est de leur enlever la... C'est de leur enlever toute crédibilité intellectuelle et morale. C'est ça, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que les Belges nous aident d'ailleurs, parce que là-bas, il existe encore en Belgique des catholiques de gauche. Il n'y en a plus beaucoup en France, ils se sont fait écrabouiller depuis que Delors a disparu de la circulation. Uh-huh. Mais en Belgique, il reste encore une sous-catégorie de population un peu particulière, une sous-culture, une sous-sous-culture, qui est la sous-culture catholique de gauche. Et ça donne des gens qui restent encore honnêtes, démocrates, soucieux de tolérance, d'écoute et de respect des règles démocratiques. Alors du coup, avec ces gens-là, on peut communiquer.
Alors on va revenir un peu plus tard sur votre expérience belge et notamment ce qui s'est passé après votre passage sur la première chaîne nationale. Antoine Schuller, est-ce que en ce début d'année, lorsque vous décidiez de balancer, je mets entre guillemets, votre père, vous êtes attendiez à intégrer la sphère de paranoïa, de folie qui est en train de nous décrire Christian Cotten.
Non, parce que bien avant, parce que, en fait, moi ça a commencé, j'ai commencé à avoir des doutes il y a déjà à peu près 2 ans sur pas mal de choses que je voyais. J'étais très naïf, hein, assez naïf. Et après j'ai rencontré une certaine personne. C'était Marie Laforêt,
oui.
Qui en fait était la femme d'un monsieur qui est impliqué dans... j'ai découvert, en fait, j'ai vu les papiers, le disque dur de
ce monsieur, impliqué
j'ai commencé...
On a eu une coupure.
Une petite coupure téléphone.
Une petite coupure,
ouais. Et tu as dit qu'un monsieur qui est impliqué dans, et puis on a eu un blanc, là.
Un monsieur qui est impliqué dans diverses...
Décidément, on n'y arrive pas. Diverses affaires, c'est ça?
Diverses affaires. Vous m'entendez, là?
Ouais, ouais.
C'est mieux?
Ouais.
Donc, j'ai découvert plusieurs documents et l'analyse de ces documents m'a fait comprendre pas mal de choses sur ce qu'on nous cachait, sur la vérité qu'on nous cachait. Et après, j'ai rencontré Christian, mais c'était plus en parallèle. Moi, j'étais déjà comme dirait un certain aware.
Ouais.
Déjà aware de pas mal de choses qui se passaient. Puisque j'ai vu des gens, j'ai vu des amis de mon père, des gens qui normalement, si on en regarde les journaux, etc., rien à faire ensemble, qui seraient officiellement plutôt même des ennemis, et qui sont en fait le soir en train de dîner très tranquillement autour d'une table de Bordeaux 75, en train de fumer le cigare et de faire du business ensemble. Et des gens qui ne sont vraiment pas du tout faits normalement pour être ensemble, l'opinion publique. L'opinion publique n'irait jamais imaginer que ces gens-là puissent être amis, en fait.
Selon le décor officiel, en fait.
Voilà, le décor officiel. Mais en fait, on est dans un grand théâtre. Toutes les façons qui nous dirigent, en France ou dans plein d'autres pays, sont des acteurs, sont des grands acteurs. Les politiciens sont des acteurs, c'est un métier. C'est un métier d'acteur. Ces gens-là jouent un rôle, c'est de la démagogie, elles sont... hallucinantes, certains sont vraiment très très forts et sont des gens qui, même malgré des opinions officiellement opposées et des partis différents, dès que l'argent est de mise, comment dire ça, il n'y a plus de barrières,
ils
peuvent faire affaire.
Vous savez, Olivier, je crois que l'histoire humaine se répète, même si elle bégaye et qu'il y a quelques différences d'un bégaiement à l'autre. L'être humain, depuis la nuit des temps, se bat pour les territoires. L'être humain se bat pour l'argent. L'être humain se bat pour les femmes. Les mâles se battent pour les femelles. C'est de vieilles histoires et ça continue. Simplement, ce qui change, ce sont les échelles. Là, la bataille pour les territoires, la bataille pour les ressources minières, pétrolières, la bataille pour le pouvoir symbolique et le pouvoir du mâle sur les femelles se joue à l'échelle de la planète tout entière. Pensez à ce qui s'est passé ces jours-ci au Nigeria. C'est assez fascinant. Ce roi que j'allais qualifier de roi nègre, sans que ça soit forcément péjoratif dans mon esprit, mais c'est en même temps terriblement pitoyable, ce président du Nigeria qui, pour montrer son pouvoir, invente d'aller faire venir chez lui je ne sais combien de dizaines ou de centaines de femmes parmi, entre guillemets, les plus belles de la planète. Le résultat, c'est 200 morts. Alors, et donc, si on poursuit ce genre de raisonnement, la planète est entrée dans une espèce de guerre extraordinaire de chacun contre chacun, pour du pouvoir symbolique, pour du pouvoir sur des territoires, pour du pouvoir sur des richesses minières. Le problème, c'est que nous avons atteint des niveaux de technologie qui nous dépassent.
Alors, sur l'affaire du 11 septembre, celle dont on a parlé tout à l'heure, celle qui nous a amené en Belgique, vous avez cité un nom, Smaïn Bedrouni, avec lequel vous travaillez de concert, en tout cas, ouais, sur cette affaire. Ouais. Smaïn est avec nous en ligne.
Oh. Ah, très bien, oui. Alors, je vais essayer de faire en sorte de régler tout ça.
Smaïn, bonjour. Smaïn ? Ah, Smaïn est parti. Bon, on va le rappeler. ce n'est pas un problème.
Alors, avant qu'on le rappelle, vous allez nous le présenter, Smaïn, s'il vous plaît. Christian Cotten, qui est-il? Quels sont les démêlés récents qu'il a eu avec la justice? Et en quoi ces divers démêlés viennent finalement ajouter aux propos que vous nous tenez depuis 1h20 sur cette antenne?
Bah, écoutez, moi j'ai rencontré Smaïn Bedrouni essentiellement autour du dossier du 11 septembre, effectivement. Il se trouve que mes relations personnelles dans des mondes bien informés, comme l'on dit, m'ont permis de savoir au lendemain du 11 septembre, de savoir un certain nombre de choses sur les réalités de cette affaire-là. Par des sources que je considère dignes de foi et très bien informées. J'ai découvert un certain nombre de choses. J'ai écrit assez rapidement ce que je pensais de cette affaire du 11 septembre et de l'ensemble des enjeux, de l'ensemble de la mécanique qui avait présidé à ces opérations. Et il se trouve que Smaïn Bedrouni écrivait quelques semaines ou quelques jours avant moi à peu près les mêmes choses. Et je crois même qu'il a écrit son premier article sur le dossier au lendemain du 11 septembre. Smaïn est musulman, il est plutôt bien connecté avec cet univers-là et avec lui aussi un certain nombre de sources de renseignements et d'informations fiables et précises. Bon, voilà, et nous nous sommes rencontrés sur ce terrain-là, et depuis, nous travaillons effectivement ensemble. Alors, effectivement, Smaïn a une histoire personnelle un petit peu particulière. Au lendemain du 11 septembre, il s'est retrouvé mis en examen pour, je ne sais plus quelle formulation précise de délit pénal, mais en gros, incitation à la violence, et en gros, Smaïn était qualifié de terroriste, alors qu'il se contentait de faire un travail de journaliste derrière son ordinateur et sur Internet, mais la France, enfin les renseignements généraux de la Creuse avaient besoin de s'occuper et la France avait besoin de montrer qu'elle s'intéressait aux terroristes au lendemain du 11 septembre. Alors lui s'est retrouvé dans le lot des gens pour chasser. Bien entendu, son dossier est vide. Il a reçu ce matin même, je crois, la levée du contrôle de police auquel il était soumis depuis le mois de septembre. Bon, il vous racontera ça lui-même.
Alors tout de suite d'ailleurs, Smaïn Bedrouni, bonsoir. Et bienvenue sur l'antenne de Radio Ici et Maintenant, si vous êtes toujours en ligne. Décidément, nous n'y arrivons pas avec Smaïn.
Le plaisir de la technique.
Le plaisir de la technique. Alors, si vous le permettez, ça fait une heure que vous parlez sans relâche, Christian Cotten. On va faire une toute petite pause musicale. On va essayer de joindre Smaïn. Antoine, vous restez avec nous. On vous quittera après la pause musicale, après qu'on vous ait un petit peu encore cuisiné. A tout de suite donc, auditeurs de Radio Ici et Maintenant, un petit morceau de musique et on revient juste après.
Thank you.
radio Ici et Maintenant, 95.2. Vous êtes avec Olivier. Ce soir, nous sommes accompagnés de Christian Cotten. Christian Cotten, bonsoir.
Bonsoir.
Rebonsoir. Et nous avons en ligne, après avoir tenté plusieurs fois de le joindre, Smaïn Bedrouni. Smaïn Bedrouni, bonjour.
Oui, bonsoir.
Et bienvenue sur l'antenne de radio Ici et Maintenant. Alors, il y a quelques minutes, Christian Cotten, en face de moi, nous disait un petit peu qui vous étiez et quel démêlé judiciaire vous aviez pu avoir avec une issue, il semblerait, aujourd'hui. Pour autant, puisqu'on vous a en ligne, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs, nous dire quel est à vous votre combat, s'agit-il d'un combat d'ailleurs, et que s'est-il passé pour vous après le 11 septembre 2001 ?
L'histoire a commencé bien avant le 11 septembre 2001.
Oui.
Depuis quelques années, on constatait des massacres des populations musulmanes à travers le monde, Kosovo, Bosnie, Tchétchénie, c'était là il y a quelques années. Et je veux dire, personne ne disait, enfin, tout le monde se taisait, personne ne dénonçait tous ces massacres. Et en tout cas, très peu de monde. Et je veux dire, l'élément déclencheur, c'était la dernière, quand l'armée russe a déclenché le bombardement de Grozny. Pendant un mois, ils ont bombardé la ville et sous les yeux de l'opinion publique internationale. Et, je veux dire, personne ne s'est soulevé, personne n'a essayé d'empêcher tout ça. Au bout de une fois que le Grozny a été bombardé, détruite, il y a eu un blackout total au niveau des médias. Alors nous, on s'est dit, c'est pas possible. Je veux dire, il y a la guerre en Tchétchénie, il y a une résistance et personne n'en parle. Alors, ce qu'on a fait, on a recherché des informations et on a commencé à donner les nouvelles. On s'est intéressé bien sûr à d'autres pays où il y avait aussi beaucoup de manipulation politique, bien sûr médiatique, puisque les médias suivent toujours malheureusement. Et on a essayé, bon, on a enquêté puisqu'on a des certaines personnes dont c'est le travail et la spécialité, donc qui se sont mis à enquêter dans différents ce qu'on appelle différents fronts à travers le monde. Et ils ont révélé, bien sûr, ils ont amené des preuves qu'il existait malheureusement une synchronisation dans tout ce qui se passait dans le monde. Et qui, bien sûr, ces synchronisations avaient comme point commun quelque chose que je ne pourrais pas citer à l'antenne maintenant, bien sûr, parce que il aurait fallu que je vous explique d'autres choses avant. Je peux pas vous sortir ça maintenant, vous allez pas me croire, donc je préfère ne pas en parler maintenant. Par contre, ce qu'on peut dire maintenant, l'affaire du 11 septembre, je veux dire, ça nous a pas étonné. Pourquoi ? Parce que ce qui se passait depuis les mois qui ont précédé le 11 septembre, nous ont préparé à ce qui allait se passer, et les médias ont tout fait et ont travaillé pour préparer l'opinion publique internationale à une riposte américaine. Simplement, une riposte américaine ne pouvait pas avoir lieu sans un élément déclencheur, et l'élément déclencheur, c'était le 11 septembre. Donc quand le 11 septembre est arrivé, je veux dire, c'était bien tombé. Ça permettait bien sûr de justifier le terrorisme d'État qui devait arriver juste après. Allô.
Oui, Smaïn, bonsoir. Ce qu'on peut rajouter là juste maintenant à tes propos, qui me paraissent particulièrement pertinents et très bien complétés, et tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on peut ajouter, c'est que l'invasion de l'Afghanistan était de toute façon déjà programmée, bien avant le 11 septembre.
Quelques mois avant le 11 septembre, nous avions des bulletins d'alerte du Frontier Post et même d'Afghanistan qui révélaient que des troupes américaines et iraniennes étaient aux frontières de l'Afghanistan et s'entraînaient pour une attaque massive sur l'Afghanistan. Je veux dire, ça n'a pas été une surprise. Il y a eu plusieurs alertes comme ça.
Techniquement, les Américains n'étaient pas capables, entre le 11 septembre, et quand est-ce que l'invasion de l'Afghanistan a démarré, le 25 octobre, non? Ou quelque chose comme ça.
Non, début novembre.
Début novembre, ouais, ok. Ouais, ouais. Un mois et demi après. Techniquement, l'armée américaine n'est pas capable, en un mois et demi, de se mobiliser pour envahir un pays comme l'Afghanistan. Il faut 4 à 5 mois.
Mm-hmm. Maintenant, si vous me permettez, j'aimerais vous donner quelque chose. J'aimerais vous expliquer quelque chose de très, très important.
On vous écoute.
Bon, vous savez très bien que bon, j'enquête sur tout ça. Vous savez, moi, j'ai pas lâché depuis le 11 septembre, malgré toutes les pressions, malgré qu'on a essayé de me faire passer pour un terroriste, islamiste, fondamentaliste. Je veux dire, ils ont tout essayé avec moi. Je suis un petit peu habitué maintenant à tout ça, mais j'ai quand même continué mon travail et j'ai quand même continué mes enquêtes. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? En tout cas, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que il y avait au niveau de l'Alliance du Nord, maintenant on va parler de quelqu'un que je n'aimais pas trop avant et pour qui aujourd'hui j'ai beaucoup de respect, qui s'appelle c'est le commandant Massoud. Ça peut sembler étonnant pour certains qui vont entendre ça ce soir. Eh bien, Massoud est un homme qui a été trahi. Bien sûr, il a fait du mal, il a fait des erreurs, etc. Mais il me fait quand même de la peine. Pourquoi? Parce que c'était le seul homme qui était capable d'empêcher ce qui allait se passer. Les Russes, avec l'Alliance du Nord, avec le Goul Aga, etc., avaient mis au point un plan pour attaquer, pour réenvahir l'Afghanistan. Et ça, bien avant le 11 septembre. L'Alliance du Nord vendait les informations aux Russes, et en même temps, ils allaient voir les Américains et leur disaient, voilà, on a vendu telles informations aux Russes, combien vous nous payez, vous nous payez et vous nous donnez... Enfin, ils vendaient la même information aux Américains. Bien sûr, les Américains payent toujours plus, ce qui fait qu'ils ont remporté tous les marchés. À la fin, au moment où ils se sont rendus compte que les Russes avaient déjà préparé le plan et qu'ils étaient prêts à envahir, il y avait une seule personne qui était capable d'empêcher l'invasion de l'Afghanistan, que ce soit par les Russes ou par les États-Unis, c'était le commandant Massoud. Ce qui s'est passé, l'assassinat du commandant Massoud, pour moi, tel que je le vois aujourd'hui, c'est un coup monté. C'est un coup monté, et pas par des islamistes ou des Al-Qaïda, etc. Mmh. Moi, je vois pas ça comme ça. Je vois une grosse manipulation des services secrets qui avaient besoin de se débarrasser du commandant Massoud. Ils ont lancé... C'est quelque chose de très grave, ce que je suis en train de vous dire. Si je me permets de vous le dire aujourd'hui, c'est parce que quand même, j'ai suffisamment d'éléments pour pouvoir en parler et pour pouvoir le dire à l'antenne. Et en plus, moi, ça me protège quelque part, parce que je peux pas garder ça comme ça. Donc, le commandant Massoud aurait été même capable de s'allier avec les talibans pour empêcher toute invasion, qu'elle soit de la part des États-Unis ou de la part de l'URSS, enfin des Russes. Voilà.
Peut-être faut-il préciser en quoi l'Afghanistan est un enjeu militaire aussi important.
Oui, tout à fait.
Parce que sinon, c'est à la limite incompréhensible. Pourquoi est-ce que les plus grandes armées du monde iraient se battre pour... Allez, j'exagère, mais quelques arpents de montagne.
Alors, c'est vrai que l'argument avancé par certains concerne les richesses pétrolières.
Bah, oui, il faut être clair. Il faut être très clair. L'essentiel de l'économie mondiale actuelle est toujours fondé sur les énergies fossiles, c'est-à-dire les énergies noires de la Terre. Le charbon, l'uranium et évidemment le pétrole. Et je crois qu'il n'est pas inutile de simplement rappeler que les plus grandes richesses pétrolières actuelles sont, grosso modo, autour de la mer Caspienne, dans les pays du sud de l'ex-URSS, les pays musulmans, essentiellement musulmans, et puis en Irak, bien sûr l'Arabie Saoudite derrière. Sans doute la première réserve mondiale actuelle, c'est l'Irak et la seconde ou la première, tout dépend comment on compte, toutes les réserves autour de la mer Caspienne. Or, pour récupérer ce pétrole, il faut pouvoir faire tracer la route aux pipelines et notamment au travers de l'Afghanistan. Les sociétés américaines travaillent la question du pipeline au travers de l'Afghanistan depuis plusieurs années, bien avant le 11 septembre. Notamment, une société comme la société Enron est impliquée dans les négociations pétrolières hier, enfin, de construction du pipeline au travers de l'Afghanistan. Et je crois qu'il y a un enjeu là qui est un enjeu majeur. Alors il y en a d'autres, c'est pas le seul. C'est pas le seul enjeu.
Oui, Christian, il y a l'opium aussi.
Il y a la drogue. Voilà, il y a les drogues, l'opium. L'argent de l'opium afghan sert à l'armée américaine et en particulier à la CIA à financer un certain nombre d'opérations qui ne sont pas finançables sur les budgets officiels.
Smaïn, vous confirmez l'usage de l'argent de la drogue
afghan. Mais le 11 septembre, au soir, j'ai publié un article donc sur stcom.net que j'ai envoyé donc à TF1, France 2, France 3, j'ai envoyé à la presse algérienne, marocaine, enfin j'ai envoyé ça aux quatre coins du globe, j'ai envoyé en Tchétchénie d'ailleurs aussi. En Arabie Saoudite, en Algérie, le Maroc, et bon, c'est un petit peu ce qui m'a sauvé. Moi, je pensais que j'allais me faire assassiner. Je me suis dit, de toute façon, j'ai pas le choix. Si on peut essayer d'empêcher une guerre, de toute façon, il faut alerter l'opinion publique. Je pensais que les médias allaient suivre. Malheureusement, ils ont très mal suivi. Je me suis fait lyncher par la presse aux ordres. Et bon, ça, je le déplore toujours aujourd'hui. Mais dans ce papier, j'écrivais que je posais la question à qui profite le crime. Et c'était la première question qu'il fallait se poser. Et j'ai présenté quelques petites idées comme ça, et qui tenaient, hein, bien sûr. La suite des événements est venue confirmer qu'effectivement, ce sont les Américains qui sont derrière tout ça. C'est une manipulation orchestrée par les services américains.
Alors autre élément que j'ai en ma possession et qui viendrait éventuellement abonder dans votre sens, un article du Monde, daté dimanche 24, lundi 25, qui nous annonce que l'Afghanistan, un an après la chute des talibans, est redevenu premier producteur d'opium. La culture du pavot a retrouvé le niveau record à la fin des années 90.
Voilà, oui, tout à fait.
C'était le but.
C'était un début,
c'était
bien
un
sûr.
Début, oui.
C'est un début parce que l'argent de la drogue alimente de manière considérable l'économie mondiale, l'ensemble des circuits financiers.
Les narcos-dollars représentent plus de 2 000 milliards de dollars par jour dans l'économie mondiale.
Ouais.
C'est énorme.
Ouais, c'est considérable. Et donc, ces comptes talibans étaient contre la drogue. Alors, attendez, faut arrêter ça, quoi.
Ils avaient quasiment éradiqué la production de drogue, enfin la production d'opium en Afghanistan, sur tout le territoire. Ils allaient recevoir le premier prix, enfin, l'organisme américain l'Observatoire international des drogues.
Oui.
Ils allaient recevoir le premier prix, et ça c'était historique au niveau. Je veux dire, personne au monde n'avait aussi bien combattu contre la drogue dans aucun pays. Et donc, d'ailleurs, dans cet observatoire, il y avait, je crois, 770 ou 700 personnes, les chiffres, je pourrais vous les redonner plus tard, qui étaient payées uniquement parce qu'ils étaient au courant que l'Afghanistan avait carrément, les talibans avaient éradiqué la production d'héroïne, d'opium, pardon. Ils savaient qu'il n'y avait plus de production et ils se taisaient, ils ne devaient pas fournir l'information, diffuser l'information.
Oui, je crois que pour bien comprendre toute cette histoire, effectivement, c'est intéressant de comprendre quels sont les enjeux de la guerre dans laquelle les États-Unis sont partis aujourd'hui. Il y a le pétrole, il y a l'argent de la drogue, il y a aussi, et peut-être surtout, les budgets militaires. Aujourd'hui, le budget de la défense américaine est un des budgets les plus gigantesques de l'histoire militaire de l'humanité. Et derrière cela, il y a toute l'économie américaine qui tente de survivre et de garder son hégémonie industrielle au travers des budgets militaires. L'économie américaine aujourd'hui est dans une situation qui n'est pas brillante, loin s'en faut. Et elle a terriblement besoin de l'industrie militaire pour survivre. Or, pour justifier au regard des contribuables américains l'augmentation énorme des budgets de l'armée, le budget de l'armée américaine aujourd'hui est plus important qu'il était au temps de la guerre froide. Je crois qu'il faut bien voir les choses dans une perspective historique. La chute du mur de Berlin a été une catastrophe pour les budgets de l'armée américaine. Comment l'industrie américaine survit-elle face notamment à ses concurrents, parce qu'il y a des concurrents à l'industrie américaine de l'armement, qui sont notamment les concurrents européens, comment cette industrie-là survit-elle sans la guerre froide? Il faut réinventer une guerre. Alors, où allons-nous trouver un ennemi? La Chine, le Japon, injouable, l'Europe, injouable, qu'est-ce qui reste? Les musulmans. Alors, fabriquons une guerre contre l'islam. Développons celles qui existent déjà, renforçons-les, et cela va permettre de redéployer les budgets de l'armée américaine. Et c'est exactement ce qui se passe depuis l'arrivée de George Bush au pouvoir. C'est hyper clair, il suffit de prendre les chiffres, je ne vais pas vous les citer parce que ça ne m'intéresse absolument pas, mais allez voir, que l'auditeur peut se reporter aux deux livres, notamment à trois livres qui me paraissent intéressants et importants de lire sur le dossier du 11 septembre.
Oui.
Les livres de Thierry Messant
aux
éditions Carnot, le premier s'appelle « L'effroyable imposture », le second s'appelle « Le Pentagate », ces deux livres font un bilan extrêmement documenté, extrêmement solide, extrêmement sérieux sur l'arnaque du 11 septembre, notamment le second livre avec l'expertise d'un militaire français, Pierre-Henri Bunel, expert en balistique et effet des armes, enfin des explosifs. L'expertise de Bunel est extrêmement claire, elle est limpide. Ce qui est tombé sur le Pentagone le 11 septembre n'est pas un avion, comme on a tenté de le faire croire à l'opinion publique internationale, sans jamais montrer un seul débris, ni une seule photo d'ailleurs, mais c'est effectivement un missile. Pierre-Henri Bunel donne, en gros, il ne donne pas le numéro du missile, mais c'est tout comme il donne le type de missile effectivement utilisé.
Ouais.
Bon, c'est une démonstration magistrale, effectivement, de l'arnaque du 11 septembre. Ces deux livres sont globalement très très bien documentés. Un troisième livre est intéressant aussi, paru récemment par un auteur belge, Peter Franssen, aux éditions OPO en Belgique, à Anvers. On le trouve très bien distribué en France, qui s'appelle « Pourquoi ont-ils laissé faire les terroristes le 11 septembre ?»
Les pirates de l'air.
Pardon ?
Pourquoi ont-ils laissé faire les pirates de l'air ?
Pourquoi ont-ils laissé faire les pirates de l'air
voilà.
Okay, merci.
C'était juste une parenthèse.
Okay. Et ces trois bouquins donnent un tableau extrêmement clair et saisissant de l'ensemble de la problématique du 11 septembre. Si on revient aux enjeux...
Christian Cotten, avant d'en venir aux enjeux, comme nous ne disposons que de deux lignes téléphoniques et que je souhaiterais que les auditeurs interviennent, on va se tourner vers Antoine Schuller. Antoine Schuller, vous êtes toujours à nos côtés?
Oui.
Alors, vous l'avez compris, j'ai besoin d'une ligne téléphonique.
Oui.
Je vous remercie d'être intervenu dans le cours de cette émission. Que va-t-il se passer concrètement pour vous demain par rapport au combat initial qui vous concerne et qui concerne la politique intérieure française et le cas particulier de votre père, Antoine?
Le cas de mon père, je vais m'en occuper, entre guillemets. Je vais essayer de faire comprendre aux gens qui sont à circonscription et veulent être élus, les dangers que ça peut représenter. Sinon, pour le reste, je combats toujours avec mes amis, Christian en l'occurrence, et d'autres personnes, et j'ai l'intention de faire une suite à mon livre, qui sera pas vraiment une suite, parce que mon premier livre était plutôt basé sur mon adolescence et sur ce que j'ai pu voir étant jeune.
Oui.
Là, ce sera beaucoup plus technique et beaucoup plus placé sur les affaires concrètes et les liens entre différentes personnes qui sont plus qu'étonnants.
Et peut-être, Antoine, peux-tu rajouter qu'en attendant, tu cherches à trouver quelqu'un qui te prête un appartement pour pouvoir t'héberger, parce que tu es à peu près à la rue, faute de revenus et faute de pouvoir trouver aisément un emploi, parce que le nom que tu portes est un peu lourd à porter.
En plus, comme j'ai pas d'emploi pour louer quelque chose en ce moment en France, c'est le parcours du combattant. Puis je vous demande 3 mois de caution, 1 an de CDI, etc. Et qu'avec mon nom, on peut pas dire que beaucoup de portes soient ouvertes.
Vous avez tenté les HLM?
Non.
Non, pardon.
Oui, mais si je tente les, je pense qu'on m'en refusera.
Peut-être en demandant à la ville de Paris, ça pourrait marcher.
En demandant hein?
À la ville de Paris, ça pourrait peut-être marcher.
Peut-être, je ne sais pas.
Chef de Clichy.
Oui.
Il y aurait peut-être des passe-droits, on ne sait jamais. Alors Antoine, quand même, avant de vous quitter, une question que je vous posais en début de cette émission, des révélations fracassantes nous étaient annoncées. Sont-elles disponibles quelque part ou attendez-vous un instant, un environnement, un contexte particulier pour enfin nous les délivrer?
Bah, des révélations, j'en ai déjà fait pas mal dans mon livre,
ouais.
qui est publié chez Michel Lafon, qui doit être disponible sur commande, parce qu'il doit, il doit plus être vraiment sur les étals. Mais on peut le demander, ça s'appelle Les bons amis de papa, où déjà je décris un peu l'univers que j'ai connu, de gens qui ont de pouvoir et qui font beaucoup de choses pas claires, entre guillemets. Et sinon, je prépare en ce moment un autre livre qui sera beaucoup plus technique, comme je vous l'ai dit.
D'accord, donc c'est...
Et mon
c'est...
livre est encore disponible, mais sur commande, à mon avis, à la FNAC, dans toutes les bonnes boutiques. Donc il est, à mon avis, toujours disponible.
Merci Antoine Schuller.
Je vous en prie.
À bientôt, au revoir.
Salut Antoine.
Salut. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, vous l'avez compris, une ligne téléphonique est libre, vous avez la possibilité de dialoguer en direct avec Smaïn qui est à ma gauche. Smaïn, vous êtes toujours là ?
Oui, bien sûr.
Et Christian Cotten qui est en face de moi, 01 45 75 45 45, si vous souhaitez leur poser des questions sur l'état des lieux qu'ils nous ont fait jusqu'à présent des fameux attentats du 11 septembre 2001. Alors, on va revenir précisément à cette affaire du 11 septembre et notamment à cette émission diffusée sur la première chaîne nationale belge. Smaïn, est-ce qu'elle a été à la mesure de ce que vous étiez en droit d'attendre d'un média, cette émission ?
Tout à fait.
Liberté de parole totale, écho... Je vous écoute.
Oui, tout à fait, bien sûr. Je veux dire, moi j'avais l'impression vraiment de vivre quelque chose que malheureusement je n'ai jamais pu vivre en France avec les médias français. Et je pense qu'en matière de démocratie, la Belgique a des leçons à donner à la France, malheureusement.
Et pourtant, la Belgique, notamment avec l'histoire de l'affaire Dutroux, n'a pas forcément été un exemple de transparence.
Ah oui, ça c'est encore un autre...
Vous faites exprès de parler de l'affaire du Dutroux ?
Non, pourquoi ? Non, mais simplement, vous nous présentez la Belgique comme un État démocratique par excellence.
Je parle de mon vécu.
D'accord, tout à fait.
Moi, je veux dire, ce que j'ai vu, en tout cas, c'est qu'en France, j'ai été dépeint comme étant un terroriste, islamiste, fondamentaliste, intégriste, etc., etc., et la Belgique est allée plus loin dans sa recherche et m'a donné une chance, en tout cas à moi et à Christian, etc., que la France ne nous avait pas donné. Je veux dire, ils nous ont donné un droit que nous étions en droit d'attendre chez nous. Et nous, ce droit, nous avons été obligés d'aller le chercher ailleurs. Et c'est ce qui est déplorable, malheureusement. Et je n'ai pas pu dire tout ce que j'avais à dire par faute de temps, mais en tout cas, un minimum. J'ai peut-être parlé 3 minutes, mais ça a été suffisant, en tout cas pour moi, de dire d'où je viens au moins les gens m'ont vu. Je veux dire, quand les médias disaient que j'étais un terroriste islamiste fondamentaliste, etc., personne n'est venu m'interviewer. Le seul interview qu'il y a eu, il a été fait par FR3. Il est passé, donc sur FR3 au niveau régional.
Oui.
Alors qu'au niveau national et même international, on était allé filmer ma boutique, etc. Alors que, en sous-entendant que c'était un repère de terroristes, etc., que ça cachait quelque chose. Ici, au niveau régional, au début, on disait carrément que c'était moi qui avais mis au point les attentats du World Trade Center. Je ne sais pas si vous imaginez que j'étais allé dans mon pays. Alors moi, j'ai posé la question. Je dis, mais attendez, c'est mon pays, c'est la France. Quel pays vous parlez ? Elle disait, il est allé dans son pays, il a rencontré quelqu'un en prison qui lui a donné des plans. Il est venu, il est rentré en France avec les plans. Il a travaillé sur les plans sur son ordinateur à Sardan, dans sa petite boutique, et il a mis au point les attentats du World Trade Center. Ils ont présenté des photos de types que je n'ai jamais vus, que je ne connais pas. Ils ont dit que c'était mes collègues, les types avec qui soi-disant j'avais travaillé, et que c'était avec ces gens-là que j'avais fait les attentats du World Trade Center.
Donc une histoire fantasque selon vous, mais en tout cas extrêmement bien ficelée.
Ah oui, tout à fait. Je veux dire, c'était trop parfait, c'était trop bien monté. Pour dire qu'il n'y avait pas de préparation, c'est faux, c'est impossible. Donc, je veux dire, pour que les médias se soient préparés comme ça, c'est qu'il y avait eu un travail de fait avant le 11 septembre.
Mais alors concrètement, à quel titre vous deux, et puis on accueillera Frédéric juste après, vous avez été invité sur le plateau de cette émission?
Ouais, tu sais, c'est simple, Olivier, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure.
Ouais.
Le 3 septembre, émission RTBF sur le thème des musulmans après le 11 septembre, différentes collectivités, communautés musulmanes, bruxelloises ou belges ont été invitées sur le plateau. Parmi eux, des relations de Smaïn Bedrouni, et nous nous sommes retrouvés invités dans le public.
Ah, d'accord.
Et c'est là que nous sommes intervenus une première fois, donc le 3 septembre, ce qui a donné fortement envie au journaliste Paul Germain de nous inviter pour une autre émission.
D'accord.
Une autre émission s'est faite là, il y a 15 jours maintenant, le 12 novembre, où d'un côté, moi j'étais interviewé auparavant dans le cadre d'un petit reportage, et dans l'autre cadre, lors du débat, Smaïn a pu intervenir. Mmh. Je suis également intervenu à la fin de l'émission. Et nous avons simplement dit l'essentiel de ce qui était à dire. C'est-à-dire que beaucoup d'intervenants ont développé leur thèse, leur point de vue sur ce qu'on peut appeler l'impérialisme ou le terrorisme d'État américain actuel sur l'ensemble ou une partie en tout cas significative de la planète.
Mmh.
Et quant à nous, nous sommes allés jusqu'au bout du raisonnement, auquel un certain nombre d'intervenants ne vont pas pour le moment, parce que c'est encore un petit peu trop dur, mais ils vont y venir petit à petit. Nous sommes allés au bout du raisonnement, consistant à dire que nous étions face à une opération militaire.
Mmh.
Bon, voilà. Et nous sommes en train, pour ne rien vous cacher, d'envisager une autre émission qui aura lieu dans quelques semaines, qui sera consacré à l'autopsie du 11 septembre, où
d'accord.
Il s'agira là de se poser véritablement la question de qu'est-ce qui s'est passé réellement le 11 septembre, si tant est que l'on puisse répondre à une telle question. Mais en tout cas, on peut avancer dans dévoiler une partie de la vérité, parce qu'il y a des choses qui deviennent évidentes maintenant.
Donc en ce qui concerne cette première intervention sur la télévision belge le 3 septembre
et une autre le 12 novembre.
On n'est pas dans le cadre d'un incident où vous auriez été vous auriez eu la possibilité de vous exprimer. Non, là on est bien
le 3 septembre, j'ai un tout petit peu forcé les choses.
Ouais.
Le 12 absolument pas.
D'accord.
Parce que tout était préparé, organisé et prévu. Et la prochaine fois, ce sera la même chose. Oui.
Donc là, vous avez effectivement, de la part de ce média, un écho positif, sinon aux thèses que vous défendez, en tout cas, au souci d'explication que vous avez par rapport à ces événements.
Au souci d'explication, oui, bien sûr. On ne demande pas, je crois qu'aucun intervenant honnête ne demande aux journalistes d'être d'accord avec ce qu'il a
non,
à
dire. Bien entendu.
Ce que nous attendons d'un média démocratique, c'est qu'il laisse la parole possible. Le seul endroit, je crois, médiatique où Thierry Messant a eu le droit d'intervenir en France, c'est chez Thierry Ardisson.
Oui.
Alors, là encore, on est dans du gag, parce que si je regarde les dossiers sur lesquels nous travaillons, qui sont des dossiers de poubelle extrêmement difficiles, nous n'avons pas parlé pour le moment du dossier de l'ordre du Temple solaire, on pourra
y venir. On va y venir.
Qui est une poubelle gigantesque de l'État français. Si nous parlons de l'affaire Schuller, si nous parlons du 11 septembre, quelle est la seule émission française sur laquelle ces dossiers ont été traités, je vais dire honnêtement.
Tout le monde en parle.
Eh bien, c'est chez Thierry Ardisson. Mmh. C'est quand même invraisemblable. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, je n'ai rien contre lui. Mais il fait quoi? Il fait de l'info-spectacle. Le seul endroit où il est possible de dire clairement un certain nombre de choses sur des réalités basiques. Thierry Ardisson a reçu Marie Laforêt, il a reçu Antoine Schuller, il a reçu un certain nombre de gens sur le dossier de l'OTS.
Mmh.
Le seul endroit en France où on peut dire des choses de manière à peu près claire, c'est dans une émission de variété. C'est quoi ce cirque-là?
Alors,
où les journalistes?
À ceci près que vous oubliez ici et maintenant.
Oui, ok, pardon. D'accord.
Alors,
d'accord. Non, mais d'accord.
Non, mais j'entends bien votre propos.
Et là, hélas, on ne joue pas dans les mêmes cours. Combien de gens touchent TF1 le soir à 20h ou à 20h30, enfin, ou même à 1h du matin d'ailleurs. Mais même
tout
à 1h du matin, la vérité ne passe pas parce que le système est totalement verrouillé.
Les enjeux ne sont pas les mêmes, effectivement. Alors Frédéric, bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir Christian Cotten, bonsoir
Sabine.
Donc tout le monde s'entend bien ?
Non, moi j'entends très mal Christian.
Alors je vais essayer. Là, tu entends mieux Smaïn ?
Je t'entends mieux toi, mais Christian ?
Ok, ben, je sais pas. Là, oui, moi je t'entends bien, alors ça presse.
Frédéric ?
Oui.
Oui, c'est bon ? Tu...
Oui.
Ok.
Alors bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les auditeurs. J'aimerais poser une question à M. Cotten.
Ouais.
La secte judéo-anglo-saxonne, est-ce que c'est bien cette secte dans laquelle M. Bush s'est converti en 1987 ?
Écoutez, bon, moi je suis très méfiant par rapport aux grandes généralisations.
Oui.
Donc je vais un peu sur des œufs là-dessus. Maintenant, il y a une chose qui est très claire, qui est un fait avéré, ou alors... il va falloir faire une démonstration très sophistiquée pour prouver le contraire, que effectivement, M. Bush fait partie d'une société secrète, occulte, d'apparence templière et maçonnique, qui s'appelle Skull and Bones. J'en ai parlé tout au début.
C'est connu pourtant, ça. C'est même...
C'est très connu.
C'est très connu.
C'est très connu.
Le sait, c'est en 87 qu'il s'est converti à ça.
La date exacte, je vous avoue que je ne l'ai pas, parce que je ne l'ai pas mémorisé et retenu, mais il le dit dans un de ses bouquins, il le dit très clairement, c'est à la sortie de... C'est en gros les dernières années des études à Yale, où il est rentré dans ce groupe-là.
J'aimerais aussi...
comme son père, d'ailleurs, et comme toute sa famille, plusieurs générations.
Oui.
D'ailleurs.
J'aimerais aussi vous poser une question. J'avais annoncé, c'était d'ailleurs avec Olivier, j'avais lu dans le Parisien que le grand-père de George Walker Bush était l'un des banquiers qui avait financé la campagne d'Adolf Hitler. C'est vrai ou pas, cette histoire ?
Alors, d'après un monsieur qui s'appelle Michael Moore, qui est un cinéaste américain, qui a écrit récemment un livre que je trouve tout à fait intéressant. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure, oui, c'est le quatrième bouquin que j'ai oublié de citer avec ceux de Messant et de Peter Franzen. Il y a le livre de Michael Moore. La traduction française et le titre est nul. Ça doit être Michael Moore contre-attaque ou un truc comme ça. C'est un peu débile. Alors que le bouquin ne l'est pas du tout et Michael Moore non plus. Le titre original en américain, c'est Stupide homme blanc ou quelque chose comme ça, qui est beaucoup plus pertinent par rapport au contenu du livre. Et effectivement, Michael Moore cite une information extrêmement précise, où il expose que le grand-père Bush, effectivement, était un banquier impliqué, enfin, dont les principaux actionnaires étaient des industriels allemands de l'armement. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une question à laquelle personne ne répond jamais lorsque l'on enseigne dans les écoles, y compris à l'université, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Personne jamais ne répond à ne pose ni ne répond d'ailleurs à la question de qui a financé Adolf Hitler.
Ouais.
Et il est très clair qu'il y a des convergences terrifiantes entre l'industrie américaine et l'industrie d'armement nazi. C'est très clair. Et des connexions financières, bien entendu. Bien entendu. À ma connaissance, il n'y a pas eu de pertes très importantes dans les grandes familles juives, financières, bancaires, d'avant-guerre ou de pendant la guerre. Il n'y a pas eu de pertes, là. Dit autrement, le massacre des juifs, c'est d'abord et avant tout le massacre des juifs pauvres.
Cela répond-il à ta question, Frédéric ?
Oui, je voudrais poser une autre question aussi.
Qui a vraisemblablement été, je vais aller jusqu'au bout de ma pensée, même si je dois me faire assassiner pour ça, massacre des juifs pauvres, qui a vraisemblablement été financé par d'autres juifs beaucoup plus riches. Pas seulement d'ailleurs, mais aussi.
Je veux dire aussi que pour l'Afghanistan, il n'y a été pratiquement que pour la drogue. Vous l'avez énoncé,
le pétrole.
Ça a augmenté, oui, le pétrole, mais surtout pour la drogue. Et il faut savoir aussi que, et ça c'est connu aussi, ce qui est fabuleux, c'est qu'en plus ils le disent eux-mêmes, ils le reconnaissent eux-mêmes, que les narcotrafiquants colombiens qui investissent leur argent aux États-Unis dans les banques américaines sont protégés.
Oui.
Et que la guerre du Vietnam avait été financée en grande partie par l'argent de l'opium, et d'ailleurs toute une partie était vendue par les Nord-Vietnamiens pour financer la guerre. Enfin, c'était un truc complètement délirant. Et c'est reconnu en plus, ils le disent eux-mêmes, c'est ça qui est fabuleux.
Ben, nous sommes, je crois, dans un grand, grand délire collectif. Je me souviens d'un homme qui s'appelle Thierry Gaudin, qui était un polytechnicien français brillant et prospectiviste brillant, qui il y a quelques années disait à la télévision dans une émission, les grandes maladies du 21e siècle, ce sont les maladies mentales. Je crois que nous y sommes, mais complètement.
Et je voulais vous dire aussi, pourquoi vous avez parlé, je vais juste terminer pour libérer l'antenne, parce que c'est un sujet tellement intéressant qu'il y a trop de gens qui vont appeler.
Ouais.
À propos de l'information, il faut savoir qu'en France, on nous raconte qu'on est un pays libre, l'information, c'est libre, etc.
Ouais.
Et je peux vous dire que quand vous allez à l'étranger, notamment en Afrique, vous vous apercevez que dans des pays africains, il y a 100 fois plus de liberté de presse qu'il y en a en France. Non mais ça paraît, c'est incroyable.
Terrible. C'est terrible, mais je vous crois volontiers.
Ouais. Il faut vraiment que les gens voyagent. Ouais. Et je voulais dire aussi que si vous avez les médias officiels qui dénigrent l'Internet en nous disant « Oui, vous savez, il faut se méfier d'Internet, il y a la rumeur, etc. 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 » C'est évidemment pour que les essayer de discréditer un maximum et que les gens continuent à croire aux mensonges délirants qu'on nous raconte à longueur d'année. Alors qu'en plus, ces gens-là nous ont menti des milliers de fois, mais le problème, c'est que les gens n'ont plus de mémoire.
Non, non.
C'est ça le problème. Non.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis je suis d'accord avec tout à fait d'accord avec tout ce que vous exposez là. J'ajouterais une autre dimension pour comprendre un peu ce qui se passe. Je crois que la réalité est tellement terrifiante à certains endroits aujourd'hui que beaucoup de gens n'ont même pas envie de savoir. Quoi. Je crois que
c'est plus rassurant.
C'est terrible de faire face au réel à certains moments.
Moi aussi, j'aurais voulu croire. Au début, moi, je me suis fait violence, mais je voulais vraiment croire à la version officielle américaine.
Bien sûr,
et puis, à un moment, si vous voulez, même mon père m'a dit qu'il avait vu les photos où le soi-disant avion en réalité avait été abattu par un missile.
Ouais.
Parce que il est fonctionnaire et donc il y a des photos qu'on circule dans les ministères. Parce que les Français, si vous voulez, lorsqu'il y a eu l'attentat du 11 septembre, les satellites français se sont focalisés sur le Patagone. Et donc, évidemment, ils ont pris des photos et on s'est aperçu que tout était bidon de A à Z dans cette affaire.
Eh oui.
Les gens ne savent pas, quoi. C'est ça le problème.
Ouais, je suis profondément persuadé que l'élite politique, la classe politique française, sait parfaitement.
Oh oui, ils le savent très bien. Hein.
Ils le savent très bien. C'est d'ailleurs pour cela, et je veux dire que c'est sans doute une des premières fois de ma vie que ça m'arrive, mais je veux dire que le travail que font aujourd'hui les diplomates français, Chirac et les autres, de mon point de vue, est relativement correct. C'est-à-dire qu'ils tentent de mettre un minimum de résistance. Alors, on peut en même temps penser que c'est complètement bidon parce qu'à la fin, de toute façon, Bush imposera ce qu'il veut. Mais au moins, pour le moment, ils tentent de mettre une certaine résistance.
Excusez-moi, je vous coupe un peu pour acheter ça. Il me semble aussi que le chef des services secrets allemands a remis sérieusement en cause les conclusions de 11 septembre.
Alors, le chef des services secrets allemands, je ne sais pas. L'ancienne ministre de la Justice, qui s'est fait virer récemment, allemande, elle a traité M. Bush de nazi, très clairement.
Voilà.
Oui, les Allemands ont compris beaucoup de choses, et c'est bien aussi pour ça qu'ils résistent, sans doute plus même que les Français aujourd'hui. Bon, malheureusement, en Europe, le jeu est totalement biaisé parce que il y a l'Angleterre au milieu et que l'Angleterre.
Je veux dire que les Allemands ils ont subi de reste et puis.
On n'est pas très bien là.
Merci à toi, Frédéric.
Merci beaucoup de m'avoir laissé parler. Hein. Puis bonne continuation. Vraiment, cette émission, elle est vraiment très très intéressante.
Merci, Frédéric.
Bon courage à tous les invités. Hein.
Merci à toi.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2. Comme Frédéric, vous souhaitez intervenir en direct sur cette antenne, posez vos questions à nos deux invités. Il s'agit de Christian Cotten et de Smaïn Bedrouni, 01 45 75 45 45, et c'est tout, une seule ligne est libre. Smaïn, on ne vous a pas beaucoup entendu parler, est-ce que vous adhérez à ce qu'a répondu Christian Cotten à Frédéric?
Oui, tout à fait, bien sûr. Tout à fait. Oui.
Oui. Oui. Alors, vous nous avez, vous avez évoqué au début de votre intervention, Smaïn, les différentes pressions. Et c'est pas simplement un terme anodin qui, depuis, avant le 11 septembre, ont un petit peu terni votre quotidien. Il y a quand même de la peur dans votre voix quand vous vous exprimez, Smaïn.
Oui. Bien sûr. Vous savez, quand on sait ce que je sais, et je veux dire, quand on a vécu ce que j'ai vécu, oui, la peur est là, bien sûr, c'est normal. Je veux dire, je ne suis qu'un être humain, et surtout, je ne suis pas un terroriste, je ne suis pas un fondamentaliste, extrémiste, etc. Je veux dire, je suis pas fou. Enfin, si, je suis fou, mais sans l'être. Donc, j'ai conscience quand même de ce que je suis en train de jouer. Mmh. Et le problème, c'est que j'ai pas le choix, parce qu'il y a des vies, il y a des vies à sauver, il y a des vies humaines, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui se font tuer, massacrer. Et je veux dire, on peut pas. Je veux dire, j'ai un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je me tais, je reste dans mon coin, dans la Creuse ou n'importe où, et puis je me trouve un petit coin tranquille et je m'efface et je dis plus rien et je laisse les gens se faire massacrer. Mmh. Ou alors, je combats contre tout ça et puis je fais ce que je peux avec les moyens que je peux, que je peux trouver.
Bon, alors, sans vouloir vous pousser aux révélations, c'est pas le but. Est-ce que vous pouvez désigner CEUX ou ceux envers lesquels vous combattez aujourd'hui? Qui ou quoi?
Je combats tous les criminels contre l'humanité, quels qu'ils soient. C'est-à-dire, aujourd'hui, si Bush se comporte comme un criminel, alors je dois tout faire pour le poursuivre. Et tout mettre en œuvre de manière à ce qu'il soit poursuivi devant une cour pénale internationale. C'est ce que nous faisons avec Christian et d'autres.
Oui, une pétition d'ailleurs circule largement actuellement sur Internet.
Si c'est la même chose pour Sharon, eh bien nous poursuivrons Sharon. Si c'est la même chose pour Poutine, nous poursuivrons Poutine. Si ce sera Monsieur Dupont un jour, nous poursuivrons Monsieur Dupont.
Alors on a bien conscience en même temps que ce dont vous nous parlez depuis le début de cette émission dépasse complètement les frontières géopolitiques qu'on a pour habitude de prendre comme cadre de notre réflexion, de la façon qu'on a de percevoir le réel. Comment on bascule dans cette espèce d'univers assez hallucinant, je dois vous dire, que vous nous décrivez tous les deux?
Vous savez, quand vous suivez un petit peu les États-Unis, je veux dire, vous êtes obligé de les suivre un peu dans leur délire de manière à pouvoir les comprendre. Mmh. Avant que les États-Unis prennent pour cible les musulmans, avant que les États-Unis essaient de faire croire au monde que l'islam et les musulmans sont l'ennemi international, etc., ils avaient besoin de créer un autre ennemi avant de pouvoir. Et cet autre ennemi, c'était les extraterrestres. Ça permettait aux Américains, enfin en tout cas au service secret, enfin à l'armée américaine, de justifier le budget de l'armée américaine. Il a fallu justifier le budget. Pour justifier le budget, ils ont fait croire à une éventuelle attaque extraterrestre. Je veux dire, tout a été mis en œuvre, la télévision, les films, etc. Je veux dire, ils ont monté tout un monde pour faire croire aux populations que que la planète risque un jour d'être attaquée et que ce sont les États-Unis qui doivent faire face à ça. Pourquoi les États-Unis? Si effectivement il y aurait pourquoi les États-Unis? Pourquoi pas l'Europe? Pourquoi pas la Chine?
Smaïn est en train d'évoquer là, Olivier, un autre des grands enjeux du grand jeu actuel.
J'entends très mal, Christian.
Oui, ce que je dis, Smaïn, c'est que tu es en train d'évoquer là un autre des grands enjeux de la démarche stratégique, de la stratégie d'emprise totalitaire, militaire, guerrière américaine sur la planète. Cet autre enjeu, c'est le fantasme d'une partie de l'armée américaine de la création d'une cinquième arme, après la marine, la terre, etc., la cinquième arme étant l'armée spatiale. Une grande partie des généraux américains veut depuis plusieurs années, souvenez-vous déjà sous Reagan, on commençait à parler de la guerre des étoiles, d'accord, c'est pas seulement dans les films de science-fiction fabriqués par Hollywood et payés par l'armée américaine, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi, c'est une parenthèse, un des grands fantasmes de l'armée américaine, c'est la création d'une arme spatiale, et pour ça il faut des budgets gigantesques. Avec derrière un fantasme d'empire multidimensionnel dominant l'ensemble de la planète. C'est ça leur jeu. C'est un fantasme infantile, adolescent. Qu'est-ce que c'est que l'histoire des États-Unis? C'est une histoire d'une culture qui a 200 ans, fabriquée avec des intégristes protestants d'un côté et de l'autre côté des gangsters. Et le mélange de tout ça nous donne une Amérique adolescente qui découvre qu'elle a des muscles et qui joue de ses muscles en disant « c'est moi le chef ». Et c'est un délire, c'est un vaste délire. Comment arrêter ça? C'est ce que nous tentons de faire sans basculer pour autant dans la violence, parce que tout le problème il est là. Comment arrêter le délire d'un malade mental sans basculer dans la même violence que lui? Donc, et je voulais juste rajouter ça. Quand Smaïn dit oui, compte tenu de tout ce que je sais, j'ai peur. J'avais envie de lui dire aime un peu plus ces malades-là, parce que plus tu les aimeras, moins tu en auras peur.
Non, j'ai pas peur de ces. Non, attends, bon, Christian, j'ai pas peur de ces malades-là, justement. Je veux dire, c'est pas eux qui me font peur. Moi, d'accord. Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. Je veux dire, ça a été un choc pour moi quand même. Jamais je n'aurais imaginé que être désigné comme étant un terroriste quand même. Jamais je n'aurais pensé être moi-même désigné comme un terroriste islamiste ou un terroriste, etc.
Mais si, parce que tu sais, en France, les policiers s'ennuient. Les magistrats aussi.
Bon, ça, on me l'a expliqué.
En particulier dans la Creuse.
Oui,
Qu'est-ce que tu veux qu'ils trouvent à se mettre sous la terre?
Non mais Christian, il y avait un monsieur des renseignements généraux qui m'a dit, mais vous comprenez monsieur Bedrouni,
il
se passe jamais rien en Creuse, il faut bien qu'on fasse quelque chose.
Bah oui. Sinon comment tu veux qu'ils justifient leur salaire?
Non mais ça je suis d'accord.
Bon, et puis le niveau intellectuel moyen d'un officier de police moyen des renseignements généraux moyen français, c'est très bas de gamme, hein. Faut être clair, c'est bas de gamme.
Mais alors pourtant par rapport...
Il y a un déficit culturel, c'est tout, je veux dire, point.
Par rapport à ce que vous avez évoqué de cet imbroglio politico-judiciaire, Smaïn, vous avez l'air de vous en sortir finalement plutôt pas mal. Christian Cotet nous disait tout à l'heure que aujourd'hui même, vous auriez eu des nouvelles plutôt positives des différents chefs d'inculpation qui pesaient sur votre tête. Qu'est-ce qui vous a valu finalement d'être un peu libéré de cette pression, selon vous ?
Bon, malgré tout ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est au niveau des médias. Les médias m'ont diffamé. Bon, j'ai porté plainte contre TF1, France 2, Le Figaro, etc., contre certains médias.
Pour diffamation ?
Oui, pour diffamation. L'amnistie est tombée, ils ont tous été amnistiés.
Oui.
Moi, je suis resté donc toujours mis en examen, etc. Et puis, j'étais sous contrôle judiciaire. Sous contrôle judiciaire, donc j'avais interdiction de sortir du territoire français, interdiction de me connecter sur Internet.
D'accord.
Alors pour quelqu'un qui dirige une société de création et d'hébergement de sites Internet, ça m'a coulé la boîte.
Oui.
En plus, bon, avec la publicité que TF1 m'avait fait, donc j'ai perdu tous mes clients. Je travaillais avec But a dit pour la réputation de mon établissement, on peut pas donner de travail à Monsieur Bedrouni, donc c'était fini. Et donc j'ai dû mettre la clé sous la porte.
Donc concrètement, on vous a essoré économiquement
Mais en plus de ça, je veux dire, ce qui est le plus marrant dans tout ça, c'est que j'étais déjà sous contrôle judiciaire, j'avais interdiction de sortir du territoire, et je signais une fois par semaine au commissariat de police.
D'accord.
Et donc j'ai appris aujourd'hui, je suis descendu de Paris à Guéret, et quand je suis arrivé, on m'attendait, on m'a expliqué que le contrôle judiciaire était levé. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de venir signer au commissariat, et donc je pourrais éventuellement sortir, donc c'est-à-dire que je pourrais reprendre mon travail, puisque je suis aussi journaliste d'investigation, donc je pourrais sortir de France pour aller enquêter poursuivre mes enquêtes. Je peux aussi me reconnecter sur Internet.
Mais finalement, et on va en finir avec ça, et puis on va accueillir Anne-Marie qui a une question à vous poser à tous les deux. Le fait que, je répète, cette pression se relâche aujourd'hui même, vous n'avez plus ce contrôle judiciaire, n'est-ce pas quelque part une preuve qu'on ne vous estime plus forcément dangereux ou crédible par rapport à ce que vous pourriez annoncer, énoncer, prouver, démontrer?
Pour moi aujourd'hui, je pense que, vous savez, le juge Valla, le jour où il m'a mise en examen, a été très correct avec moi. Il m'a dit, vous savez, monsieur Bedrouni, on entend parler de vous depuis 2 mois. Il me dit, avant ça, on vous connaissait pas. Mm-hmm. Il me dit, mais vous comprenez qu'avec ce qui vient de se passer, nous sommes obligés de vérifier. Et je lui ai répondu, je lui dis, d'accord, monsieur le juge, vous pouvez vérifier. C'est tout. Et donc la justice a vérifié. Moi j'ai joué le jeu, je veux dire. Toutes les semaines je suis allé signer, etc. Je veux dire, j'ai rien à me cacher, j'ai rien à cacher ni à moi ni à personne. Et j'ai joué le jeu donc. Et je pense que la justice a fait son travail et qu'ils ont vu que j'étais pas un méchant. Et voilà, c'est tout. J'attends aujourd'hui mon non-lieu et puis voilà, c'est tout. On reste copains et puis voilà.
Mais alors selon vous, Christian, je vous tire de vos notes. Qu'est-ce qui finalement aurait justifier une telle mécanique pour contrer Smaïn et qui finalement aujourd'hui se résoudrait de façon assez sereine.
Vous savez, on est là dans les fabrications d'usines à gaz par les services de renseignement généraux, qui sont spécialistes depuis un paquet d'années.
Je t'en prie, Christian.
Je dis, Smaïn, que nous sommes là dans un montage d'usines à gaz fabriquées par les renseignements généraux, comme ils en sont compétents depuis un paquet d'années.
Ah, je voulais pas en parler de ça, Christian.
Bah oui, bah si, écoute.
En plus, pas devant tout le monde.
Écoute, je crois qu'il faut dire un certain nombre de choses. Bon, Smaïn, depuis un certain nombre d'années, travaille avec un de nos autres amis très chers, qui s'appelle le docteur Eric Dietrich, qui est psychanalyste, sexologue, et qui, lui, travaille sur un certain nombre de dossiers, là aussi mafieux, enfin relatifs à des systèmes mafieux, qui sont des dossiers qui ont à voir avec des affaires de pédophilie. Et Smaïn gérait aussi un site concernant des dossiers de pédophilie.
Or, on a fait beaucoup de conférences à travers la France. Nos conférences ont été boycottées. J'ai été beaucoup poursuivi par la justice pour avoir dénoncé des gros bonnets. Notamment, je ne sais pas si je peux en parler, Christian. J'ai le droit d'en parler à l'antenne.
Bah écoute, moi je vais dire une chose, puis tu diras.
Il y a eu un endroit où j'ai le droit d'en parler, non?
Tu as le droit de tout dire.
Je crois fondamentalement que vous avez le droit de tout dire.
Ouais, il y a un certain monsieur Charles Edouard qui va certainement se reconnaître, qui est, je crois, quatrième fortune de France, dont nous avons publié le dossier sur Internet. Ce monsieur a porté plainte contre moi et demandé 950 millions de dommages et intérêts pour diffamation. Au même moment, je veux dire au moment où il a déposé plainte, moi je venais un mois auparavant, je transmettais à Interpol, à la PJ de Bruxelles, je transmettais aux renseignements généraux, je transmettais à la brigade de recherche, à la SR de Limoges, et bon, qui ont transmis ensuite à Paris, le catalogue complet de tous les CD-ROM et DVD pédophiles de l'an 2000, avec comment commander, à qui commander, avec une description de toutes les cassettes, enfin de tous les films, et je peux vous dire que dans le catalogue il y avait 7 films qui avaient été tournés sur le territoire français avec des enfants français et des adultes français.
Donc finalement vous prouviez
existait un réseau international extrêmement bien structuré et qu'on pouvait commander des enfants comme on voulait. Dans ce catalogue il y avait aussi il proposait de l'escorte d'enfants. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
Pas du tout.
C'est-à-dire que un chef d'entreprise, par exemple, qui a un gros contrat à faire signer. Chez certaines personnes, par exemple, ils vont louer les services d'une prostituée. D'autres vont utiliser les services d'un enfant. Et ils vont prendre, s'ils savent que la personne avec qui ils doivent signer le contrat est un pédophile, aime les enfants, ils vont être accompagnés d'enfants pour aller signer le contrat. Et bien sûr, la signature du contrat se termine par ce que vous savez. Mmh. Voilà. Donc dans ce catalogue, il proposait ça. Et bien sûr, avec les coordonnées, à qui commander, combien, enfin, il y avait les tarifs, il y avait tout, hein. Donc quand je me suis fait attaquer, j'allais dire son nom, Monsieur Charles Edouard a porté plainte contre moi.
Oui.
Donc j'étais convoqué. Bon, faut dire aussi que c'est un homme qui est très puissant dans la région, hein, dans le Limousin, puisqu'il dirige une usine. Il est très respecté, tout le monde a peur de lui, etc., etc. Mais pas moi. Bien sûr, bon, il a fait pression pour que mes conférences soient boycottées au dernier moment, bien sûr, pour que mon entreprise ait des problèmes de fourniture de matériel électronique, etc. Je veux dire, ça, je l'ai su et ça m'a été confirmé officiellement.
D'accord.
Ça, c'était bien avant le 11 septembre.
Ouais, ouais.
Vous voyez, donc je veux dire, ça fait plusieurs années que
vous êtes un petit peu dans le collimateur.
Moi, au début, quand il y a eu l'histoire du 11 septembre, bon. effectivement, ils avaient trop d'informations sur moi. Les FR3, etc., enfin, je veux dire, les journalistes, quand ils ont parlé de moi, ils disaient que j'étais surveillé depuis quelques années. Mmh. Bien sûr, j'étais surveillé, oui, mais pourquoi ? Parce que j'enquêtais sur les réseaux internationaux de pédophilie. Mmh. Ça faisait quelques années quand même que je dénonçais le réseau international et non pas les réseaux. Il existe un réseau international de pédophilie qui est extrêmement bien structuré et qui est très puissant. Il y a un journaliste qui s'est beaucoup intéressé à ce que je faisais, qui a été contacté un jour par téléphone, et on lui a fait des menaces. On lui a dit, écoutez, Monsieur Bedrouni est très surveillé, etc. Les réseaux de pédophilie sont extrêmement bien structurés. Le monsieur prétendait travailler pour le gouvernement.
Oui.
Et lui a proposé de travailler avec eux.
Mm-hmm.
Simplement, il n'a pas dit pour quel gouvernement il travaillait.
D'accord.
Donc le journaliste a refusé. Il a eu très très peur. Il m'a dit, écoute, Smaïn, on se sépare, je ne peux plus... Voilà, il avait trop peur.
D'accord.
Oui. Moi, d'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, je suis persuadé que je vais me prendre des coups après. Je veux dire, on va raccrocher, etc. Mais moi, je pense que je vais me faire allumer après.
Ce qu'il faut savoir, Olivier, c'est que lorsque l'on parle de dossier de trafic d'armes, lorsque l'on parle de soi-disant suicide de secte, ou plus exactement de massacre organisé de minorité spirituelle.
Mm-hmm.
Lorsque l'on parle de trafic de drogue, lorsque l'on parle de réseaux internationaux de prostitution et de réseaux de pédophiles, comme nous l'expliquait il y a un an de cela une magistrate, un procureur français, une femme procureure dans un des grands tribunaux de la région parisienne, lorsque l'on prend un fil d'un de ces dossiers-là, à tous les coups, on tombe sur tous les autres.
Mmh.
Qu'est-ce que cela veut dire ?
C'est la fameuse cohérence dont vous parliez en début d'antenne.
La cohérence des systèmes mafieux de différents types, qui agissent sur différents marchés, qui, dans leur globalité, contrôlent une grande partie de la vie économique de la planète et de la vie politique. Les politiques, la plupart des politiques, sont en réalité des marionnettes au service d'intérêts économiques. Comment est-ce que l'on tient un homme politique ? On le tient, pardonnez-moi la vulgarité de l'expression, par les couilles. Et ça, c'est vieux comme le monde. C'est très vieux. Les hommes politiques ont toujours été gérés par le sexe. Toujours. De toute éternité. Simplement, autrefois, il suffisait d'utiliser des affaires de femmes, de maîtresses, et de quelques témoignages, de quelques débarquements d'huissiers au petit matin, de quelques photos, et c'était suffisant pour que une organisation mafieuse, c'est-à-dire criminelle, c'est-à-dire une organisation qui met au service de ses intérêts économiques des méthodes de type criminel, des méthodes criminelles guerrières ou purement criminelles, banales, plus ordinaires, les organisations qui ont besoin de tenir les hommes politiques ont besoin de moyens de pression, de moyens de chantage. Alors autrefois, en gros, la prostitution suffisait. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout, du moins en Europe, même aux États-Unis d'ailleurs. Clinton a survécu à l'histoire de sa fameuse fellation avec je ne sais plus comment elle s'appelait, peu importe.
Monica.
Monica. Donc on s'en fout. Par contre, les histoires d'enfants, on s'en fout moins.
Mm-hmm.
Donc ça marche. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire qu'un certain nombre d'hommes politiques, et européens dans le lot, bien entendu, sont tenus par les systèmes mafieux, par des affaires de pédophilie. Bien entendu, cela a atteint des proportions considérables en Belgique, mais cela existe aussi assez largement en France. Et si Smaïn a été attaqué à un certain moment, c'est une des véritables raisons, c'est celle-là. C'est qu'il s'est intéressé à ces dossiers-là, nous nous y sommes intéressés à politique de vie, nous avons beaucoup d'informations là-dessus. Ce sont des dossiers particulièrement dangereux.
Alors avant d'avancer et d'en venir plus tard, après avoir encore parlé du 11 septembre, à l'OTS que vous citiez tout à l'heure, je me permets de revenir juste un petit peu en arrière au début de votre intervention. Vous avez parlé des sexes, vous avez introduit une nuance en parlant de minorité religieuse. Qu'est-ce que cette nuance a comme sens pour vous ?
Bah, si vous voulez, Oula. Sujet complexe. Nous sommes à une époque, après plusieurs siècles d'exploration de la matière, nous sommes à une époque d'exploration de la conscience. C'est devenu une banalité de dire que nous sommes rentrés depuis quelque temps déjà dans l'univers de l'information, et l'univers de l'information, c'est l'univers du cerveau. Par distinction avec l'univers du pied, qui est l'univers de l'agriculture, l'univers de la main, qui est celui de l'industrie, l'univers de l'information, c'est l'univers du cerveau, et donc de l'univers de l'exploration de la conscience. L'exploration de la conscience, c'est pas très nouveau dans l'histoire de l'humanité, mais ce qui est nouveau, c'est le fait que cette exploration de la conscience connaît aujourd'hui un regain de créativité particulièrement riche. Ce que je suis en train de dire, c'est que de toute éternité, l'être humain a exploré différents chemins pour s'envoyer en l'air. D'un côté, s'envoyer en l'air, banalement, fait relation aux activités sexuelles, c'est une des grandes façons de s'envoyer en l'air, mais à l'autre extrémité, moins matérielle, s'envoyer en l'air, c'est aussi les différentes formes, entre guillemets, de prière, sous toutes ses formes, c'est-à-dire de rencontre avec le plus grand soi. D'accord ? Et l'expérience de la transcendance est une expérience vieille comme le monde, mais qui connaît autant de chemins qu'il y a d'êtres humains. Et ce qui se passe de manière extrêmement banale depuis la nuit des temps, c'est qu'à chaque fois qu'un être humain s'est envoyé en l'air de manière particulièrement intense, eh bien, il va chercher à convaincre tous les autres êtres humains qui sont autour de lui que la manière qu'il a de s'envoyer en l'air, c'est-à-dire de rencontrer Dieu, et de vivre une expérience d'expansion de la conscience, est la bonne et unique manière. Et c'est comme ça que naissent les religions. Qu'est-ce que c'est qu'une secte ? C'est un groupe philosophique, c'est un groupe de croyances, c'est une tribu d'exploration de la conscience. Et toute l'histoire des religions est faite d'une histoire de multiples sectes. Prenez l'Église catholique. L'Église catholique, c'est un ensemble de dizaines, de centaines de sectes différentes. D'accord ? Qui, en général, se battent entre elles, de façon parfois extrêmement violente, au nom d'un sentiment de vérité. J'ai rencontré Dieu à 4 heures du matin, les bras en croix sur la départementale 24 en Dordogne. C'est la meilleure façon de rencontrer Dieu. Donc, que tous ceux qui me croient me suivent, et je leur ferai rencontrer Dieu en s'explosant la tête sur de telle ou telle manière. Et à partir de là, on rentre dans les guerres de religion, on rentre dans les guerres de sectes. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'explosion de l'univers de l'information ? Eh bien, il se passe que chaque être humain, quantité d'êtres humains fabriquent leurs propres agences de voyage. Et alors, évidemment, les petites nouvelles agences de voyage d'exploration de la conscience rentrent en concurrence avec les grandes agences de voyage.
Mais pour autant, admettez-vous que certains de ces groupes, ces minorités spirituelles, peuvent, au niveau de ceux qui l'ordonnent, user de pratiques...
Bien sûr, il y a quantité de groupes malades, mais ça, c'est pas spécifique aux nouvelles minorités spirituelles. Les groupes malades, c'est un autre phénomène universel, lui aussi, et vieux comme le monde. Les groupes malades, ça commence à la famille, ça commence au couple. Tout le monde connaît des couples pathologiques, fusionnels, dont les histoires se terminent mal par l'un des deux qui tue l'autre, ou qui part tout simplement dans la violence ou la souffrance. C'est un type d'expérience assez banale, la diffusion violente, passionnelle, la fin d'une passion. Parfois, ça donne des catastrophes. Les couples pathologiques engendrent des familles pathologiques. On sait bien, dans l'histoire de la psychologie, que certaines familles sont d'excellentes matrices à fabriquer des fous, à fabriquer des schizos, des autistes, et que sais-je. Bon, on sait bien ça. Et puis après, de la famille, on va passer aux familles élargies. Quantité d'exemples dans la littérature ou dans la vie quotidienne de familles élargies particulièrement pathologiques, ou des communautés de femmes émasculent tous les hommes qui passent à proximité, par exemple. C'est pas rare. Bon, et puis après on va passer au groupe pathologique. Je regardais l'autre soir une émission de télévision qui présentait l'entraînement des pompiers de Paris. Oula, mon Dieu. Alors, c'est très utile socialement, mais le caractère endoctrinant avec modèles comportementaux rigides est terrifiant. Enfin, je veux dire, on est dans un groupe clos. D'accord ? Les pathologies de groupe, c'est quoi? C'est la clôture par rapport à l'environnement, c'est l'enfermement sur un système de croyances dogmatiques, rigides, avec un très fort sentiment de vérité, avec un fantasme de pureté. Nous, nous sommes purs, nous sommes blancs, les autres sont noirs, c'est le diable, c'est le mal, c'est la... d'accord? Bon, mais ça, tous les groupes humains connaissent ça. Les vieilles minorités spirituelles et les nouvelles. Parce que les églises...
Que tu débouches avec l'axe du mal.
Oui, bien sûr, c'est ce à quoi je vous bouche. C'est-à-dire qu'on est dans des visions très dichotomiques du monde, des visions en noir et blanc, mais toutes les religions jouent à ça. Toutes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France en 83, 84, 85? Les deux grands acteurs du marché de la spiritualité, deux grands acteurs qui tiennent ce marché en France, d'un côté l'Église catholique, de l'autre côté l'Église maçonnique, avec sa version officielle, l'école laïque et républicaine, mon cul. Enfin, excusez-moi la vulgarité, mais on est dans l'escroquerie intellectuelle. D'un côté l'Église catholique, de l'autre côté l'Église maçonnique, se sont rendus compte qu'elles étaient en train de perdre des parts de marché. Et en train de perdre des parts de marché au profit de qui? Des parts de marché souvent symboliques, mais économiques aussi, parce que la spiritualité, c'est un grand marché de l'édition, de la formation, des services psycho-spirituels diverses et variés. D'accord? Et les deux grandes églises, les deux grands acteurs économiques du marché de la spiritualité ont commencé à s'apercevoir qu'ils perdaient des parts de marché au profit de l'émergence de nouvelles spiritualités. Pourquoi nouvelles spiritualités? Ben, tout simplement parce que, à un certain moment, nous avons perdu les occupations du dimanche matin qui étaient gérées autrefois, quand j'étais enfant, par le Parti communiste et l'Église catholique. Quand j'étais gamin, j'avais le choix entre aller vendre l'humanité ou aller à la messe. Okay? Le Parti communiste a disparu. L'Église catholique a perdu du pouvoir. La nature a horreur du vide. Le besoin de transcendance, de toute façon, est un besoin fondamental. Le besoin de croire dans quelque chose est un besoin fondamental. Le besoin de se fabriquer ou de participer ou de partager une certaine vision du monde, un certain système de croyances, de valeurs, des modèles de comportement, etc., est un besoin fondamental. Donc, nous inventons de nouvelles religions. Mais ça concurrence les anciennes, donc les anciennes n'aiment pas. Donc qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh bien l'Église catholique s'est alliée avec la franc-maçonnerie dans une espèce d'alliance bâtarde, historiquement improbable et incompréhensible, pour fabriquer des systèmes de chasse aux sorcières, de chasse aux sectes. Et ça a donné la DFI, Association de défense de la famille et de l'individu, avec Janine Tavernier, qui a sévi pendant un paquet d'années jusqu'à ce qu'elle finisse par lâcher, écœurée de cette affaire et se rendant compte qu'elle s'était fait complètement rouler dans la farine par un certain nombre d'escrocs. Ça a donné le CCMM avec Roger Icor et ensuite Alain Vivien. Et puis ça a donné la MILS, la Commission parlementaire de lutte contre les sectes, et ça a donné une usine à gaz alimentée savamment par les RG qui ont trouvé là un moyen de sauver leur activité pendant quelques années parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Bon, et ça a donné un grand délire collectif. Ça a donné un grand délire collectif. Qu'il y ait des groupes dangereux, c'est de l'ordre de l'évidence, mais ça, c'est banal. Je veux dire, quelle est la véritable différence, voulez-vous me dire, entre n'importe quelle loge maçonnique, une communauté religieuse bien dure de l'Église catholique, la scientologie, les témoins de Jéhovah, un groupe islamiste fanatique? Il n'y a pas de différence. Ou un club de foot débile qui encule les petits garçons à l'arrivée pour leur faire comprendre où est-ce qu'ils arrivent. Où sont les différences?
Alors, en tête des dites sectes, et notamment du fameux rapport qu'on évoquait en début de cette émission, est cité l'Église de Scientologie. On vous a largement associé, ou en tout cas accusé d'accointance avec cette Église. Quelles sont en finale vos véritables relations avec l'Église de Scientologie?
Bah, écoutez, depuis que j'ai été qualifié de société, organisme de formation affilié à la Scientologie, j'ai rencontré des scientologues, je n'en avais jamais rencontré auparavant, enfin, je ne crois pas, ou alors de manière inconsciente de ma part, enfin sans le savoir, j'ai rencontré des scientologues depuis cette date-là, c'est-à-dire depuis juin 99. Ma foi, ils ne sont pas pires que n'importe quel catholique intégriste de mon enfance, enfin, ils fonctionnent pareil, quoi, hein. Je veux dire, ils sont dans leur film, ils ont le droit, enfin mon point de vue c'est qu'ils ont le droit. j'ai pas de relation particulière avec eux. Je me suis publiquement affiché avec eux à certains moments au travers d'une commission d'enquête sur les persécutions des minorités spirituelles, parce que j'ai considéré que c'était indispensable de le faire, mais pas plus avec eux d'ailleurs qu'avec d'autres organisations comme les Raéliens. Je crois qu'il y avait aussi dans l'eau des représentants de différents groupes, genre église mouniste et autres, j'en ai rien à faire. C'est pas là mon problème. Moi, je suis un défenseur, si je dois me qualifier comme tel, je suis un défenseur de la liberté, point barre, et de la liberté de conscience, et de la liberté de croyance. Voilà.
Mais Christian, tu peux le dire, tu fais partie d'Al-Qaïda, toi ?
Bien sûr, Ben Cotten, ouais. Ben Cotten. Ouais. Non, il faut arrêter. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que j'ai été mis dans le rapport parlementaire sur les sectes avec le qualificatif de scientologie ?
Ouais.
J'ai été mis là par, volontairement, par un certain nombre d'énergumènes des renseignements généraux. Il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai rencontré M. Jean Albouy, qui est un maître d'œuvre des rapports parlementaires successifs de 96 et 99 concernant les sexes. C'est le monsieur qui était le collaborateur à l'époque de Jacques Guyard et qui a effectivement été la cheville ouvrière de ces rapports. J'ai rencontré Jean Albouy au mois de mai dernier et nous sommes bien clairs, lui et moi. Nous savons tous, et lui et moi, et ses collègues et confrères et patron, que question Cotten n'a strictement rien à voir avec la scientologie. J'ai été mis là parce qu'un certain nombre de gens ont pensé que cela allait leur permettre de me faire taire. C'est raté, parce que depuis je parle encore plus, et je suis allé vider des poubelles encore plus lourdes. C'est comme ça que je me suis intéressé au dossier de l'OTS. Avant je ne m'y intéressais pas, mais je m'y suis intéressé depuis juin 99. On m'a mis cette étiquette parce que, d'une part c'est assez facile de dire un tel il est scientologue, parce que de toute façon c'est indémontrable, improuvable. Vous savez, les staliniens faisaient ça très très bien, hein. Démontrez-moi que vous n'êtes pas un menteur. Allez-y, vous, pour démontrer un truc pareil. On est dans le double lien et le paradoxe absolu, d'accord ? C'est très facile de dire un tel, il est scientologue, donc c'est le diable, donc il n'est pas crédible.
Alors l'OTS...
Tout simplement parce que derrière ça, je dénonçais un certain nombre de marchés publics truqués, et puis parce que aussi j'avais travaillé sur un dossier qui embête beaucoup, beaucoup de monde et dont on reparle ces derniers temps, dont on a beaucoup parlé sur cette antenne il y a quelques temps, qui est le dossier de la vaccination contre l'hépatite B.
Alors, on va peut-être aborder également le dossier de l'hépatite B. En tout cas, on abordera un peu plus
ça
tard...
Ça va faire beaucoup pour cette émission.
On abordera en tout cas un peu plus tard. Oui, mais je ne sais pas si vous avez remarqué comment les digressions se font assez prestement, finalement.
Oui,
On va accueillir Anne-Marie.
Anne-Marie.
Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir Anne-Marie.
Bonsoir.
Bonsoir monsieur. Allô ?
Oui, oui. Oh, attends, je règle les potards.
C'est, oui, il n'y a pas de l'arsène, non ?
Non, c'est bon, vas-y.
Très bien. C'est passionnant ce débat. Et puis alors, c'est un domaine dans lequel... dans lequel on marche avec des grosses bottes en caoutchouc, et que je connais un peu parce que j'ai pas mal fouillé aussi ces grandes nouvelles. C'est tout à fait l'expression que j'emploie à chaque fois que je m'y plonge un peu. C'est vraiment les fonds de poubelle qu'il faut racler, qu'il faut aller fouiller et qui sont totalement nauséeuses. Et on n'en sort pas indemne, effectivement. On en est totalement,
ouais,
on en est franchement bouleversé. Et alors, il y a beaucoup de choses, vous avez abordé tellement de choses, il y avait des... J'ai pas vraiment de questions, mais bon, pour vous dire à quel point... Pour une fois, ça fait plaisir d'entendre parler de cette façon, en fin de compte, de tout ce côté occulte. On entend trop souvent discuter sur des épiphénomènes vus à travers un peu le petit bout de la lorgnette, qui ont leur importance, mais qu'on ne peut pas parler si on connaît pas les antécédents à la fois historiques, à la fois la transversale dans le spatial, disons, géographique, etc. Donc, il y a tant et tant de liens que chaque fois qu'on prend, on étudie un petit problème comme ça, alors que vraiment, bon, mais là, voir, comme je les appelle, c'est mettre les maîtres du système, quoi, c'est plutocrate, répugnant. Alors, vous faisiez la division tout à l'heure, pied, tête, non, pied, bras, main,
ouais, pied, main et cerveau,
et tête, oui. Moi, je prends la division un peu de Platon, tête, cœur et ventre, quoi, et on est complètement dans ce bas-ventre, absolument. Alors, c'est ça, la consommation et le sexe, quoi. Ouais, enfin, c'est toute la consommation, ce sont ces maîtres-là qui dirigent le monde, là, ce qu'on appelle les parias, quoi. quoi. Il y a pas d'autres termes.
Bah, oui, je
suis. Et ça dirige tout, tout. Ouais. Parce que ça, pardon,
je t'en prie.
Je voulais juste terminer là. Pour, enfin bon, il y avait plein d'autres choses. Mais, par exemple, la presse, vous disiez, effectivement, mais quelles sont ces mafias qui paient? Mais quand on sait que, bon, tous les jours, on savait tout, la grande presse, et maintenant ils sont si peu nombreux, ils disent tous la même chose, quelques variantes près pour défendre leur fromage, c'est tout leur temps, quoi. Et quand on sait, vous savez, il y avait une époque où on demandait au roi, quitte à faire roi, hein, c'était les pères de France, là, quitte ce journal, hein, à 80%, c'est la haute finance, les multinationales, les banques, etc., qui fait ces journaux.
Clair,
alors,
c'est clair.
La liberté d'opinion à ces journaux-là, c'est un peu...
Une très grande partie de l'édition française appartient aujourd'hui, la plus grande part aujourd'hui, appartient à un marchand d'armes.
Oui.
Qui s'appelle Monsieur Lagardère, pour ne pas le nommer.
Oui. Et Ersan également, Ersan qui est quand même financé l'humanité. Alors c'est pour ça, bon, c'est, tout ces clivages, ces anciens clivages classiques, gauche-droite et tout ça, c'est complètement dépassé, mais il faut vraiment ça, parce que souvent on entend parler, même, je veux dire, sur l'antenne de... Ici et maintenant, il faudrait que les gens comprennent que le grand clivage aujourd'hui, c'est cette poignée de plutocrates visqueux et... répugnant possible, enfin les serviteurs du diable, quoi. Et puis les masses, les peuples maintenant, mais qui sont massifiés, nivelés. Alors on parlait par exemple de faire l'Europe, mais on sait très bien qu'on va niveler l'Europe au niveau le plus bas, quoi. C'est la référence, c'est toujours ce qui est le plus bas, de niveler au plus bas.
Oui, la grande distinction de demain, c'est plus la distinction droite-gauche, c'est la distinction mafia ou démocratie. Fondamentalement.
Absolument, maître du système, moi je veux dire, c'est vraiment les maîtres du système, c'est maître de l'ombre qu'on voit jamais, enfin, ou dont on voit les pantins, les...
Alors en même temps, il faut veiller aussi à ne pas tomber dans de la dichotomie noir-blanc, trop simplificatrice, parce que c'est un piège. C'est aussi un piège. Mais bon, je crois que c'est intéressant aussi de poser les vraies questions et les vrais problèmes. C'est clair.
Oui, mais alors par exemple, justement, là, voyez, vous parliez tout à l'heure. D'un grand-père ou de, enfin, du père de George Bush d'ailleurs.
Oui, du grand-père. Du père et du grand-père. Le grand-père, lui, était impliqué dans des affaires bancaires liées à l'histoire de l'armée, enfin, à l'histoire des marchands d'armes.
Oui, tout à fait. Et justement, voilà, plusieurs ouvrages. En particulier, tiens, j'en recommandais, mais en fait, il est en allemand, alors il est difficile. Die Geheime Geschichte der Amerikanischen Kriege, l'histoire secrète des guerres américaines. Alors, il remonte depuis la fondation des États-Unis, en quelque sorte. C'est absolument passionnant. C'est écrit, on ne veut pas dire que ce soit pour quelqu'un qui ait des affinités facho, nazi, tout ce que vous voulez. Il s'appelle Mansour Khan. Des juifs, vous voyez, ça peut être extrêmement nazi. Enfin, c'est passionnant, il a fait une enquête extraordinaire. Et alors là, Prescott, alors c'était le sénateur Prescott Bush, qui a fortement contribué à la prise de pouvoir de Hitler en 1933 au travers de la banque des frères Harriman. Mais c'est également eux, enfin, c'est membres de cette banque, parce qu'on oublie trop souvent de dire ça aussi, qui ont totalement soutenu et financé la révolution bolchevique en 1917.
Bien sûr. C'est assez difficile tout ça à décoder puis à mettre sur la table parce que c'est tellement contraire à l'histoire officielle que c'est pas facile. Mais il est évident que toute l'histoire du XXe siècle est une histoire de multiples niveaux.
Complètement truquée. Mais vous savez, du XXe siècle, mais ça date. Regardez, moi j'avais déjà cité cette phrase à l'antenne, c'était de Balzac qui disait que il y a une histoire officielle, c'est celle qu'on enseigne, qui est une histoire menteuse, et puis une histoire secrète, celle qu'on cache, mais celle où se décident toutes les affaires du monde, c'est une histoire honteuse. C'est Balzac qui disait ça en 1830 quand même, vous voyez.
Je crois que les marchands d'armes et les financiers qui vont avec, depuis extrêmement longtemps, n'ont jamais véritablement eu de scrupules à vendre des armes aux deux camps et à exciter les esprits pour que les armes soient utilisées.
Non seulement ils n'ont pas de scrupules, mais ils s'en servent. C'est-à-dire qu'ils ils divisent pour régner. C'est toute l'histoire aussi, qui était... Qui continue d'ailleurs toujours à soulever un pays contre l'autre, une supposée classe contre une autre, etc. Donc c'est toujours, ils ont intérêt. Il y en avait, qu'est-ce qu'ils disaient, c'était au début du siècle, par l'argent, Par la révolution, on tient les masses, et par l'argent, on tient les peuples, on tient les gouvernements.
Oui, oui, non, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On est bien en phase là-dessus, sur, sur une certaine vision du monde, enfin, une vision possible, en tout cas. Je ne comprends pas que ce soit la vérité non plus, mais on peut au moins se poser la question, qu'est-ce qui se passe si on regarde les choses sous cet angle-là, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'action derrière?
C'est ça. Mais, oui. Mais alors, ce qui est intéressant, bon, là, vous parliez des sectes aussi.
Bon, moi, c'est...
Oui, c'est un autre aspect, mais je veux dire, on est complètement... Au plus haut, ce sont que des sectes, quoi, c'est tout. Bon, Skull and Bones, c'est une secte qui est très ancienne, d'ailleurs,
hein, date pas de... Oui, elle date de la fin du 18.
Après Weishaupt et tout ça.
Oui, ça doit dater de la fin du 18e.
Au moment où a été fait le Bnaibris et tout ça.
Début du 19e.
Oui.
Vous savez, vous parlez de secte. En islam, dans le Coran, Dieu a dit, ils se diviseront en 73 sectes. Mais c'est moi qui jugerai entre eux le jour du jugement dernier. Ce qui fait que le problème des sectes en islam, il est réglé déjà d'office. Les musulmans aujourd'hui savent que la communauté musulmane se divisera en tout cas en 73 sectes, mais c'est quand même Dieu à la fin qui a le droit, et qui c'est le seul à être autorisé à pouvoir juger entre le jour du jugement dernier. Ça veut dire que aucune secte ne peut dire c'est moi qui ai raison ou l'autre est mauvaise, etc., etc. Et donc, en théorie, je dis bien en théorie, dans le monde musulman, le problème des sectes ne peut pas exister. Et ça, on le retrouve par contre malheureusement en France, en Europe, avec justement ce dont Christian parlait tout à l'heure, avec la fameuse chasse aux sectes, la milice, etc., etc. Et moi j'ai été contacté par des organismes anti-sectes qui me demandaient de parce que quand je faisais des hébergements internet, j'avais un client qui était accusé de faire partie d'une secte, et on me demandait de fermer son site internet tout simplement et de ne pas lui apporter de service. Et moi je leur ai répondu, mais attendez, quand quelqu'un va chez un boulanger et va acheter sa baguette de pain, moi ça me regarde pas de savoir s'il fait partie d'une secte ou quoi que ce soit. Moi je lui vends la baguette de pain. Et donc ils m'ont dit de toute façon, nous avons du pouvoir, votre entreprise, soit vous marchez avec nous et on va vous aider à réussir. Sinon, on vous coule votre entreprise, on vous salit votre réputation, etc. J'ai refusé de marcher avec eux. Juste après, on a fait une conférence à Guéret. Et sur à Radio France Creuse, ils sont allés dire que j'avais invité mon client qui était médecin, et qu'il était accusé. C'était une conférence de lutte contre la pédophilie, et je l'avais invité en tant que spécialiste, etc. Dont vous avez donné son nom tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais le redonner maintenant, mais ils sont allés dire à l'antenne qu'il était accusé de faire partie d'une secte. Alors que, je veux dire, moi, j'avais fait mon enquête, etc. Et donc, il faisait partie d'aucune secte. Je veux dire, c'était quelqu'un de très clean. Et donc, je l'ai gardé comme client. Et puis, je lui ai fait confiance. Et ça fait plusieurs années, que j'héberge son site internet, etc. Et je veux dire, j'ai jamais eu de problème avec lui. Par contre, j'ai demandé des preuves. Le type s'appelait Eric. Le type qui m'avait contacté et qui me demandait de marcher avec eux, il s'appelait Eric, et il m'a dit, quand il m'a présenté tout ça, je lui ai dit, mais attendez, amenez-moi des preuves qu'il fait partie d'une secte, et là, peut-être, je verrai, ensuite je verrai. Donc, il n'a pas pu m'apporter de preuves. Par contre, j'ai demandé des preuves à mon client qu'il ne faisait pas partie de secte, et lui, par contre, m'a amené des preuves.
Oui, peut-être qu'il faut préciser aussi, Smaïn. Je dis peut-être aussi, faut-il préciser, Smaïn, que fondamentalement, faut-il préciser que le mot secte ne veut strictement plus rien dire aujourd'hui. Il y a un certain nombre, il existe de toute éternité, et encore plus aujourd'hui sans doute, des minorités spirituelles diverses et variées. Et parmi ces minorités spirituelles diverses et variées, un certain nombre d'entre elles sont des organisations plus ou moins totalitaires, plus ou moins dangereuses pour les personnes qui en font partie ou pour l'extérieur. Simplement, là-dedans, il y a autant les églises catholiques et romaines que les églises maçonniques, templières, que les nouvelles minorités spirituelles. Ce qui est très intéressant dans ce qui s'est passé en France, c'est que les rapports parlementaires se sont exclusivement centrés sur, ou essentiellement centrés sur, les nouvelles minorités spirituelles, ont largement évacué, bien entendu, toutes les francs-maçonneries, et n'ont à peu près pas touché non plus aux minorités de l'Église catholique. C'est-à-dire que l'on est en clair, l'accusation secte en France a été utilisée pour faire de la discrimination sur un certain nombre de groupes, et en particulier, parce que c'est un des enjeux de la chasse aux sectes, il ne faut quand même pas l'oublier, en particulier faire de la discrimination envers tout ce qui peut bouger en matière de médecine non conventionnelle, c'est-à-dire de médecine féminine. Et là, c'est un autre aspect encore de ce dossier sur les sectes, à savoir celui de la chasse aux thérapies nouvelles, alternatives, et aux thérapies de relation que l'on appelle classiquement les médecines non conventionnelles, les médecines douces, etc.
Anne-Marie ?
Oui ?
Nous te remercions d'être intervenue sur l'antenne.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Je vais dire une parole, la vérité libre.
Tu répètes là, parce qu'on a entendu un bip. Tu t'es censuré.
La vérité vous rendra libre.
D'accord.
Voilà, l'esprit, c'est tout.
Merci Anne-Marie.
Allez, au revoir.
À bientôt,
merci.
Au revoir. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2. On va se permettre, Christian Cotten et Smaïn Bedrouni, si vous le souhaitez, si vous le voulez bien, une petite remontée musicale. 01 45 75 45 45, le téléphone sonne déjà. Alors, on va, juste avant de faire cette petite remontée, donner un petit peu le programme de ce qui va se passer. Vous avez plusieurs reprises évoqué l'OTS, l'Ordre du Temple Solaire. L'Ordre du Temple Solaire est au cœur d'une campagne que vous menez activement sur le web. On a énormément de documents concernant votre enquête sur ces questions, sur cette question, et notamment sur le fameux massacre. Cette enquête, qu'on peut trouver partout, engage la personne de Charles Pasqua. Vous nous donnerez tout à l'heure, un peu plus tard, les preuves dont vous disposez, Christian Cotten. Vous avez évoqué les francs-maçons, nous allons également en parler, et puis éventuellement, je pense qu'on aura le temps, vous confier, vous intéresser également aux supposées expérimentations atomiques souterraines qui auraient actuellement lieu en France et voire dans d'autres pays. Vous nous direz un petit peu plus de quoi il s'agit. Smaïn, vous ne quittez pas, on se retrouve dans quelques instants.
Radio Ici et Maintenant, 95.2 sur la bande FM, mais aussi Ici et Maintenant.com sur Internet, le canal au travers duquel nous diffusons 24 heures sur 24, à Paris, de France bien sûr, mais également partout ailleurs, vous devez venir de là, vous qui nous écoutez, nombreux sur Ici et Maintenant.com. Nous sommes en compagnie ce soir de Christian Cotten. Christian, bonsoir.
Bonsoir.
Alors ça c'est pour ceux qui débarquent.
Bonjour.
Ouais, on va dire bonjour à cette heure-ci. Nous avons également Smaïn, je ne sais pas pourquoi, je veux absolument que vous appelez Samir. Donc c'est Smaïn Bedrouni. Vous nous entendez bien, Smaïn ?
Oui, bonjour. Bon. Oui, ça va très bien.
D'accord. Et on va accueillir tout de suite Roger. Bonjour, Roger.
Oui, bonjour. Bonsoir.
Bonsoir, bonjour. Hein.
Voilà, en fait, moi je voulais poser une question.
Alors si tu pouvais parler un petit peu plus fort, ça me permettrait de pouvoir mieux gérer mon larsen en augmentant le retour téléphone.
Là tu as du larsen, tu veux que je parle plus fort ou...
Mais non, mais c'est parce que si tu parles un petit peu plus fort, ça me permet de baisser le retour et donc d'éviter du larsen.
D'accord.
Voilà.
Donc, mais là, ça, je parle assez fort là ou pas?
Smaïn.
C'est juste, ouais.
Bon.
Ça va.
Alors en fait, ouais, justement, je voulais poser une question parce qu'on a parlé du 11 septembre, vous avez exposé un petit peu ce que vous pensiez des idées des autres, c'est-à-dire de Thierry Messant ou même de la thèse américaine, mais on vous a pas entendu parler de votre thèse exactement. Pour vous, c'est quoi le 11 septembre alors ?
Oh bah écoutez, c'est assez clair, hein. C'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est une opération militaire, point. Alors effectivement, je rejoins la thèse de Messant parce qu'elle me va très bien. Enfin, je veux dire, j'ai pas de différence majeure. Nous sommes face à une opération militaire qui a été programmée à l'avance, qui a consisté d'un côté à accompagner, manipuler, gérer, guider un certain nombre de groupes terroristes. Lié effectivement à une organisation qui s'appelle Al-Qaïda, dirigée par un certain Ben Laden, mais il faut savoir à côté de cela que M. Ben Laden a été employé, financé, formé.
On sait tout ça.
D'accord, ok.
Il a été employé par, les
par la CIA, par les États-Unis.
Voilà. La CIA l'a embauché.
Tout à fait.
Contre
tout à fait.
Soviétique,
tout à fait. Tout à fait.
Non, ils les ont pas embauchés. C'est un peu facile de dire ça. Ils les ont soutenus effectivement, mais Oussama Ben Laden n'a jamais été un agent de la CIA.
Ah bon?
Oui, non, ça c'est pas vrai. C'est une erreur de penser ça.
Directement,
non. De toute façon, c'est pas utile. C'est pas ce qui va nous expliquer ce qui s'est réellement passé le 11 septembre. Que Oussama Ben Laden soit agent de la CIA ou pas, je veux dire, ça change rien. Il y a eu le 11 septembre, il y a eu des attaques, il y a eu un coup qui a été monté aux États-Unis, dans lequel il y a eu des milliers de morts, qui ont entraîné, d'après les chiffres que nous avons, plus de 40 000 morts sous les bombardements en Afghanistan. C'est ça le plus important. Et bon, bien sûr, on a tendance à vouloir rentrer dans des détails qui sont pas vraiment utiles pour l'interprétation de ce qui s'est passé, notamment à savoir si Ben Laden est agent de la CIA ou pas. Enfin, moi personnellement, je m'en fous. Par contre, ce que j'ai fait dans ma recherche, je suis allé dans le détail. Dans le détail, je me suis amusé à démonter le 11 septembre.
D'accord que ça, on s'en fiche effectivement de savoir si Ben Laden était agent de la CIA ou pas. Mais ce dont on ne se fiche pas, c'est de savoir que Ben Laden est quand même un héritier il fait partie de la famille royale d'Arabie Saoudite, qui a été pendant des années et des années l'allié des États-Unis. Justement, donc votre grande thèse, c'est de dire que aujourd'hui, les États-Unis veulent écraser les musulmans parce qu'ils ont besoin d'avoir un ennemi. Mais c'est faux, parce que toute la politique américaine consiste justement à promouvoir les mouvements islamistes les plus radicaux, pour pouvoir justement maintenir ces peuples dans la misère et dans un état primitif, pour pouvoir leur vendre leur matériel, leur technique, parce qu'en fait les Saoudiens, qu'est-ce qu'ils font les Saoudiens? Les Saoudiens, ils reçoivent leur argent de la terre, c'est tout, c'est pas eux qui l'exploitent, c'est pas eux qui exploitent le pétrole.
Attendez, pour le 11 septembre, on parle quand même...
On n'est pas en désaccord.
Avant et surtout de l'Afghanistan. Et l'Afghanistan, c'est un sujet à part quand même. L'Afghanistan, bon, il y avait la résistance afghane, qui combattait contre l'URSS. Et donc les États-Unis ont soutenu l'Afghanistan contre l'URSS. Une fois que le bloc soviétique est tombé,
les talibans par la suite aussi.
Pardon ?
Comme ils ont soutenu les talibans par la suite, oui, par l'intermédiaire du Pakistan.
Bien sûr.
Mais oui. c'est pas ça. C'est que en gros, hein, comment moi je vois la chose, hein, personnellement, ça me regarde moi personnellement. Je vois deux grandes puissances. On retrouve toujours les deux mêmes, les États-Unis et la Russie. Les États-Unis ont utilisé les musulmans pour combattre l'URSS. Une fois que le bloc soviétique est tombé, ils se sont retrouvés, ils n'avaient plus d'ennemis. Et il y avait une puissance qui était capable, qui gênait, si vous voulez, pour que les États-Unis viennent s'implanter dans cette région du monde. Eh bien, c'est l'émirat islamique d'Afghanistan à l'époque, et donc il a fallu les faire tomber. Et tout a été mis en œuvre pour faire tomber ce gouvernement, c'est tout. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Enfin, en gros, ensuite, on rentre dans le détail, on arrive à expliquer, on arrive à tout démonter. Mais aujourd'hui, on en est arrivé là avec Christian. On a fait ce qu'on s'amuse à appeler l'autopsie du 11 septembre, et tout s'explique. Tout s'explique jusqu'au moindre détail.
Bah alors allez-y, parce que là vous restez très vague.
Bah écoutez,
parce que vous nous dites tout s'explique.
Si on me dit j'ai le temps ce soir, on part du début.
Vous noyez sous vos paroles, quoi, mais des paroles creuses. Donc moi, j'aimerais savoir, par exemple, Monsieur Bedrouni, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez envoyé un article dès le soir du 11 septembre à toutes les télévisions en exposant vos idées. Mais quelles étaient exactement ces idées?
Écoutez,
Mais je n'ai pas parlé à vous, monsieur.
Oui, je sais. Je vais laisser Smaïl s'exprimer, mais je veux simplement préciser une chose. Petit 1, nous avons, et Smaïl et Politique de Vie, il y a des sites sur Internet bien précis sur lesquels vous allez trouver toute une série d'informations.
L'article est toujours sur Internet. Si vous allez sur le site Internet, stcom.net, ils l'ont repris, vous le retrouverez.
Voilà.
Vous allez dans le moteur de recherche du site internet stcom.net et vous ne voulez pas exposer les idées
que vous exposiez.
Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que l'on vous dise de plus? On est en train de vous dire que...
Bah, vous ne nous apportez rien du tout, alors. Parce que Thierry Messon, il a tout dit, alors...
Ah, mais je n'ai pas dit le contraire. Vous savez, je suis pas en concurrence avec Messon là-dessus. Je ne suis pas en train de dire autre chose que ce que dit Messon, sauf que nous l'avons écrit, Smaïl Bedrouni a dû l'écrire le 15 septembre et moi le 25.
Non, le 11.
Le 11, peu importe, on va pas se battre sur les dates. Je ne suis rien en train de dire de plus que ce que dit Messon, que ce que dit Franssen en Belgique. Je n'ai rien à dire
mais
de
tout
plus.
Le monde est d'accord.
On est d'accord pas. Là-dessus. Notre propos n'est pas de dire quelque chose de plus, notre propos est de dire effectivement c'est bien dans cette vision-là des choses que nous devons interpréter le 11 septembre, et cela a des conséquences derrière en termes d'action citoyenne, politique, au niveau de l'Europe. Je vais, en ce qui me concerne, nous allons un peu plus loin que Messant ou que Franssen, parce que nous exposons et nous expliquons que les dynamiques collectives autour du lobby militaro-industriel ne sont pas seulement des dynamiques purement économiques, mais qu'il y a aussi une dimension ésotérique de sociétés occultes qui interfèrent avec ce jeu-là, mais sans ne parle à aucun moment de Skull and Bones et ne parle à aucun moment des loges templières et maçonniques dans lesquelles Bush et quelques autres sont complètement insérés. Et ça, c'est une dimension, effectivement, qui ne nous paraît pas négligeable. Donc ça, c'est un apport particulier que nous faisons parce que nous allons jusqu'à cet endroit-là des choses.
Pour lutter contre les sectes, quoi, vous...
Non, je suis en train de... Vous savez...
Ça vous sert de paravent, quoi. Vous accusez les autres de sectaires pour éviter qu'on vous accuse.
Non, c'est quoi. Ouais. Enfin bon, on peut jouer à ça, mais c'est pas ça la question. De toute éternité, les politiques.
Ça, c'est justement la méthode anglo-saxonne, c'est d'accuser les autres de ses propres défauts.
Ouais, bien sûr. De toute éternité, les politiques et les militaires ont travaillé avec des sorciers. C'est pas nouveau, ça. D'accord.
Vous savez aussi, par exemple, Nicolas II avait aussi un sorcier.
Mais bien sûr, on est dans des histoires banales.
Il n'y a rien de nouveau.
Mais bien sûr que non.
Vous êtes nouveau sous le soleil.
Mais exactement, c'est ce que je dis sans arrêt. Je dis, on est dans une opération d'une totale banalité, qui est une opération militaire, dont le nombre de morts, qu'il me pardonne, est dérisoire. 3000 morts pour l'armée américaine, on n'en a rien à faire. Ils n'en ont rien à faire. C'est 3000 morts de plus, mais ils en font tellement d'autres depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans autour de la planète qu'ils n'en ont strictement rien à faire. Bon, et que tout ça répond à des objectifs bien précis, qui sont des objectifs essentiellement économiques, et qui sont des objectifs de prise de pouvoir planétaire, global. Point, point. Alors, après, c'est vrai qu'après, on rentre dans des détails à propos de qu'est-ce qui est tombé sur le Pentagone, est-ce que c'est un avion, est-ce que c'est un missile, à propos de comment est-ce qu'on a réussi à ce que deux avions, deux Boeing frappent deux tours, en l'occurrence, les tours du World Trade Center.
Non, mais ça, moi,
mais, on, mais à un certain moment,
c'est pas ça
le problème.
C'est un problème, parce que c'est terrifiant, mais c'est de savoir qui l'a fait. C'est pas, bien entendu, on s'en fiche de savoir si, si par exemple je tue quelqu'un avec un fusil ou avec un couteau, on s'en fiche de savoir avec quoi je l'ai tué.
Bien sûr, bien
et
sûr.
Pourquoi je l'ai fait.
Bien sûr.
C'est surtout ça le plus important.
Bien sûr. Bah moi, écoutez, moi au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous donner la liste exacte des gens qui sont responsables de tout ça. Ça, je ne sais pas faire. Et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est un journaliste qui soit complètement capable de le faire. On a de très fortes hypothèses. Les très fortes hypothèses, elles sont pour l'instant autour des principaux noms des dirigeants américains de type militaire ou autour des affaires étrangères. Et puis après, on va chercher du côté des grands actionnaires, des grandes sociétés d'armement. Là, il faut aller fouiller. Moi, j'ai pas les listes de noms à donner, hein, parce que je les ai pas. Puis je m'en fous d'ailleurs. C'est un système que je dénonce. Bush étant que le représentant formel, officiel, visible de l'extérieur. Mais il y en a beaucoup d'autres derrière. Il y en a beaucoup d'autres derrière. Messant en donne quelques-uns. Peter Franzen en donne d'autres dans ses bouquins. À un certain moment, peu m'importe. C'est pas là la question. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, c'est la problématique politique.
La question que je voudrais vous poser justement, c'est que si les Américains sont vraiment contre les musulmans et que maintenant, parce que moi, j'essaie de me mettre dans leur peau, en adoptant leur thèse.
Bien sûr, bien sûr.
Si ce sont les musulmans qui les ont attaqués le 11 septembre, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas s'attaquer directement au pays dont étaient originaires les pirates de l'air, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, la très grande majorité, et pourquoi est-ce qu'ils veulent s'attaquer plutôt à l'Irak, qui est un pays laïque, dans lequel les chrétiens peuvent vivre tranquillement, dans lequel les juifs aussi peuvent vivre tranquillement.
Mm-hmm.
Pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent plutôt à un pays laïque, donc plutôt socialiste, qui est musulman parce que bon, il faut essayer de mobiliser les troupes autour.
Mm-hmm.
Mais pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent pas à l'Arabie Saoudite, par exemple?
Mais on vous l'a dit parce que Oussama Ben Laden était en Afghanistan.
Et alors?
Ça vous suffit pas?
Non. Non, 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 parce qu'on peut d'abord commencer par...
Non, non, mais je plaisante. C'est évident. Le but, c'était de détruire l'émirat islamique d'Afghanistan. Point. Ces gens-là ne nous convenaient pas. Il a fallu les faire sauter et mettre à la place un gouvernement fantoche. Il a fallu mettre à la place des marionnettes qui nous permettront de faire passer le pipeline de pétrole et de pouvoir relancer la production la production d'opium en Afghanistan. Point.
Oui, c'est une autre question, ça, que l'Irak, Smaïn.
Pardon?
C'est une autre question que la problématique actuelle de l'Irak. Pourquoi est-ce que les Américains attaquent l'Irak aujourd'hui et pas l'Arabie Saoudite?
Ah, parce que c'est que les
jeux d'intérêt économique surdéterminent la stratégie militaire, c'est tout.
Bah,
c'est
oui, que point. Qu'en fait, moi, je vais vous dire pourquoi.
Point.
Je vais vous dire pourquoi. Parce que les Américains, ils ne veulent pas un crack à Wall Street. Parce que si tous les Saoudiens, les Saoudiens vendaient toutes les actions américaines qu'ils possèdent, il y aurait un crack.
Mais on est bien d'accord là-dessus, mais bien sûr, les deux économies.
Alors, comme quoi il y a une alliance entre les musulmans et les États-Unis. Là,
oui, entre les États-Unis.
Personne n'a dit le contraire.
Entre les puritains, ce sont les puritains.
Personne n'a dit le contraire. Moi le premier, je vous le confirme.
Bien sûr, on est d'accord là-dessus. On est d'accord. Attendez, on n'a jamais dit les Américains sont contre les musulmans, c'est des caricatures de propos, ça.
Excusez-moi, Christian, s'il n'y avait pas d'alliance, que j'aimerais dire, s'il n'y avait pas d'alliance entre les États-Unis et les entre guillemets prétendus musulmans, je pense pas que les gouvernements musulmans laisseraient massacrer les populations à travers le monde comme ça sans réagir. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Regardez et constatez.
savez, si on reprend la distinction que l'on avait tout à l'heure, mafia ou démocratie, les distinctions, les oppositions aujourd'hui, elles ne sont pas entre les Américains et les musulmans, elles sont...
Bah, c'est ce que vous faisiez tout à l'heure.
Oui, bah alors, je n'ai pas dit ce que je voulais dire, ni ce que je pense, ou je l'ai dit un peu vite, ou ça a été interprété un peu rapidement. C'est pas là la distinction, c'est bien, c'est toujours les mêmes histoires, je veux dire, les véritables distinctions, elles sont entre... la véritable distinction importante, elle est entre les prédateurs et les victimes des prédateurs. C'est là qu'est la distinction. Donc il y a évidemment beaucoup plus de proximité entre les grandes familles saoudiennes, la famille princière saoudienne et les États-Unis, qu'il n'y a de proximité entre la même famille saoudienne et le peuple musulman, les populations musulmanes de différents pays.
La famille saoudienne ne vit pas en Arabie saoudite.
Bah, bien sûr, non, on est bien d'accord. On est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord. Moi, vous savez.
Je préfère boire du whisky sur les Champs-Élysées.
Bien sûr, bien sûr, ou à Monaco. Non, non, mais on est complètement d'accord là-dessus. Je l'exprimais tout à l'heure lorsque l'on est intervenu sur la télévision belge. Le titre de l'émission, c'était faut-il être pour ou contre les Américains?
Faut-il être anti-américain?
Oui, faut-il être anti-américain? Quelque part, la question est complètement débile. Moi, je veux dire, j'ai quantité de d'amis, de copains, de relations américaines avec lesquels je m'entends très bien. C'est pas la question. Il s'agit pas d'être contre le peuple américain. Il s'agit simplement de dire que l'État américain aujourd'hui et enfin les institutions démocratiques américaines aujourd'hui sont aux mains de groupes factieux, d'une sédition militaire. Les institutions américaines ne sont plus aujourd'hui aux mains véritablement d'un système démocratique. C'est plus un système démocratique. Les États-Unis et les dirigeants américains n'ont plus le droit aujourd'hui de parler au nom de la démocratie. Mais ça, c'est pas le peuple américain, loin s'en faut, Dieu merci. Il y a des députés démocrates américains qui aujourd'hui réclament une commission d'enquête sur l'affaire du 11 septembre, et heureusement.
Pour essayer de répondre à votre question tout à l'heure, à savoir qui a fait les attentats du World Trade Center, moi, quand j'étais en garde à vue, donc à la fin de la garde à vue, quelqu'un de la gendarmerie nationale m'a posé la question. Il m'a dit, et entre nous, Monsieur Bedrouni, les avions kamikazes qui viennent d'y avoir aux États-Unis, est-ce que vous pensez que c'est qu'est-ce que vous en pensez? Alors je lui dis, ben écoutez, moi pour moi, si effectivement ce sont des gens qui si on prouve que ce sont des musulmans qui ont fait ça, alors ils ont été manipulés. Parce que islamiquement, il est interdit de s'attaquer aux populations civiles, même en période de guerre ou de conflit armé. Et donc aucune armée musulmane n'a le droit ou n'est autorisée de s'attaquer aux femmes, aux personnes âgées et aux enfants.
Que vous alliez prêcher en Israël alors.
Pardon ?
Faudrait que vous alliez prêcher en Palestine.
L'Israël, pour la Palestine, c'est différent parce que on sait de quoi on parle. Ils considèrent que le peuple israélien est un peuple militaire.
Ah bon,
vous voyez, bah oui, parce que en Israël, le peuple, je crois que ils font leur service militaire une fois par mois, je crois, je sais pas comment ça marche.
Mais même un nourrisson, c'est un militaire.
Pardon?
Même un nourrisson, c'est un militaire.
Je vous entends mal.
Même un nourrisson, c'est-à-dire un petit enfant qui pleure.
Attendez, j'ai pas dit ça. Mais les Palestiniens considèrent que les Israéliens sont des militaires. Voilà. Donc ils considèrent qu'ils s'attaquent à des militaires, puisque de toute façon ils considèrent qu'ils soutiennent à 100%.
Dans ce cas-là, les musulmans qui ont attaqué les Américains, si on vous écoute, si on suit votre raisonnement, bah, c'était peut-être des gens qui se disaient que les Américains c'était tous un peuple de militaires aussi. Donc ils n'étaient peut-être pas manipulés.
Non, ça tient pas. Ça tient pas, pourquoi? Parce que c'est pas...
Ça tient d'un côté et pas de l'autre?
Mais... Parce que le système est totalement différent. Parce qu'en Israël, le peuple fait son service militaire toute sa vie. Vous savez comment ça fonctionne? On fait pas un an ou deux ans en Palestine et ensuite on sort. C'est pas comme ça que ça marche. Enfin, en Israël. Je crois qu'ils font quelques jours tous les mois, je crois, c'est ça?
Non, non,
vous me confirmez ou pas?
Ça doit être 45 jours par an, oui.
45 jours par an, voilà.
En Suisse, on fait pareil, vous savez.
Pardon?
En Suisse, ils font pareil. Hein.
En Suisse, ils font pareil, voilà.
Bah
donc,
oui.
ils sont considérés... Non, mais...
Mais franchement, il n'y a pas peuple plus doux que les Suisses. Hein. Donc, c'est pas... Ça, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas un fait qui dit que c'est un peuple militaire.
Oui, mais...
La Palestine
est quand même un pays occupé. Je veux dire, c'est quand même un peuple qui est sous oppression constante.
Non, mais
vous n'allez pas me dire le contraire. On s'attaque quand même... L'armée israélienne s'attaque quand même au peuple palestinien. Ils tuent des enfants, ils tirent... Non, mais attendez, je veux dire, faut voir. Donc, je vais pas commencer à trop parler, parce qu'on va dire que je fais l'apologie des Palestiniens. Donc, on vient de m'enlever aujourd'hui un contrôle judiciaire, j'ai pas envie que ça me retombe dessus.
Mais moi je ne soutiens pas une politique aveugle d'Israël envers les Palestiniens. Moi, ce que je veux vous montrer dans la discussion qu'on a eue auparavant, ça s'appelle une dialectique, hein. on en revient. Mais vous disiez tout à l'heure que le commandement de l'islam, dans les commandements de l'islam, il était recommandé de ne pas s'attaquer, il était même interdit de s'attaquer aux civils.
Il est interdit, oui.
Ben voilà.
Oui.
Et donc dans ce cas-là, les Palestiniens qui se font sauter dans des bus où il n'y a que des enfants et des femmes, est-ce que ça c'est justifié? Ben moi, je vous dis non. Et le silence a parlé pour moi aussi. Ben je vous souhaite une bonne soirée.
Ben non, attendez, vous n'allez pas... Non mais c'est trop facile.
Bonne soirée à vous.
Parce que... Non, ben oui, c'est trop facile. Pourquoi? Parce que vous reprenez vous prenez le cas des Palestiniens, vous parlez d'Israël, vous évitez de parler de la légitime défense des Palestiniens, et vous essayez de vous en sortir comme ça. Le peuple palestinien a le droit de se défendre par tous les moyens. Par tous les moyens. Par contre, quand on parle de ce qui s'est passé aux États-Unis, même si ça avait été des musulmans, ce n'était pas un cas de légitime défense.
Oui.
Ce que j'ai
envie de rajouter là-dessus, peut-être on va en terminer là, c'est que de toute façon, nous sommes dans l'enfer de la violence dans tous les cas de figure. On va pas revenir ni refaire toutes les missions que l'on vient de faire. Peut-être faut-il juste prendre un minimum de recul et dire que qu'un peuple ait le droit de se défendre, certes, d'une manière ou d'une autre nous justifions la violence par la violence et que nous restions dans le cercle de la violence, ça par contre ça ne me paraît pas juste quels que soient les cas de figure. Ce que je suis en train de dire, c'est que à chaque instant un peuple pris dans une spirale de violence doit aussi savoir maintenir vivante la question de comment est-ce que l'on fait pour sortir de la spirale de la violence.
Alors, on va accueillir Patrick. Patrick, bonsoir.
Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde, et bravo pour l'émission que vous êtes en train de faire. J'écoute depuis le début, j'ai pas lâché.
Merci.
Je voulais faire une remarque parce que ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai entendu sur une radio qui est internationale, RFI, et qui m'a flashé. C'est-à-dire une réunion qui a eu le mois de février en Suisse. J'ai pas de radio allumée.
Ah. Non, mais si tu pouvais parler plus près de ton téléphone, ce serait bien.
Oui, vous entendez mieux.
Ah, c'est ça, beaucoup mieux.
Mm-hmm. Ah, d'accord. Mais c'est pas pratique avec le portable. En définitive, il y a une réunion qui s'est passée en Suisse où il y avait deux familles qui se réunissaient. On va le dire direct, c'était les Bush et Ben Laden principalement, et c'était pour la société dont vous parliez tout à l'heure.
Mm-hmm.
Et donc c'était une réunion, un comité d'entreprise, on va dire.
Mm-hmm. Conseil d'administration, oui.
De quoi ?
Un conseil d'administration.
Un conseil d'administration, exactement.
Ouais.
Et ce qui s'est passé, c'est quand la voiture de M. Laden, donc le beau-frère de Ben Laden, est arrivé, il est avec une énorme voiture, donc c'était tout à fait normal. Il arrive, il monte son carton d'invitation, ça se passait dans un hôtel. Les vigiles ont vu marquer Laden, ils ont pris de panique et ils l'ont renvoyé.
Mmh.
Mm-hmm. Et j'ai été très surpris d'entendre cette anecdote à RFI. Parce que c'est par ce fait-là que j'ai compris qu'en fait Ben Laden et Bush, ils étaient dans le même consortium financier qui tournait autour des armes. Et quand c'est passé le 11 septembre, j'ai été terrifié comme tout le monde, on va dire. Mais ce qui m'avait vraiment frappé au niveau médiatique, c'était la présentation des images. Quelles images on voyait ? On en a eu un paquet. Et j'ai vu votre émission, je vous ai vu à la télé.
En Belgique.
Chez Ardisson, je
crois. Oui, avec Antoine Schuller, peut-être.
Oui,
ou...
avec Antoine Schuller.
Ouais, d'accord.
Et c'est vrai que ça a été un désastre dans un sens pour vous, mais au moins vous avez parlé.
Ah oui, ça c'est De Chavanne, c'est autre chose, c'est encore une autre émission. D'accord.
C'est plus grave. Donc j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait le même point de vue que moi, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu beaucoup d'images du Pentagone.
Non, on en a pas vu.
Moi je m'en rappelle en avoir vu une, très frappante. Donc on voyait le trou béant, mais on voyait pas de queue.
Bien sûr.
On voyait rien.
Non.
Alors
non.
Que bon, il y a l'autre qui avait l'explosion, mais il y avait quelque chose qui
Non, il y a eu ni vidéo ni film.
Et ainsi de suite. Vous voyez, comme tous.
Oui, il n'y a eu aucune vidéo de publiée sur le Pentagone, et les rares photos se sont contentées de montrer l'incendie, c'est tout.
Oui, exactement.
Et l'expert militaire Pierre-Henri Bunel, qui a travaillé là-dessus, sur ce dossier, explique que les incendies qui sont montrés sont des incendies qui ne sont pas des feux de pétrole. De kérosène, absolument, ce qui est un des arguments pour démontrer qu'effectivement il ne s'agit pas d'un avion mais d'un missile. Ensuite de ça, l'élément essentiel sur cet aspect-là du dossier, Pierre-Henri Bunel démontre tranquillement qu'aucun nez de Boeing, quel qu'il soit, n'est capable de faire un trou de 2,20 m circulaire dans du béton. Par contre, il existe des missiles qui sont parfaitement conçus pour ça. Et qui réussissent parfaitement à faire des cercles parfaits, des ronds parfaits de 2,20 m dans des murs de béton. Et la démonstration sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un avion mais d'un missile qui est tombé sur le Pentagone est très forte. Enfin, lorsque l'on rentre un peu dans les détails, c'est extrêmement solide. Extrêmement solide.
Mais c'est, moi, ça m'a frappé, je ne suis pas du tout expert, mais ça m'a frappé au niveau des images. Et ce qui m'étonne le plus, c'est les gens, par exemple, qui disent « Oui, c'est tout à fait normal, il y a eu des gens qui n'étaient pas contents, ils ont envoyé des avions, donc il faut arrêter 5 minutes. » C'est pas crédible. Même s'il ne faut pas énormément de sous, c'est pas crédible.
Tous les experts militaires, de services secrets, qui parlent off sur ce genre de dossier, j'ai quelques personnes qui sont bien placées pour m'informer. Tous les gens un peu sérieux sur ce genre d'affaires disent très clairement que aucune organisation terroriste au monde n'est aujourd'hui capable de concevoir, penser, organiser, mettre en œuvre les attaques telles qu'elles ont eu lieu sur le World Trade Center avec les moyens dont elle dispose. C'est très clair. La thèse de Thierry Messant, reprise d'un certain nombre de journalistes américains, d'ailleurs, auxquels on peut avoir accès plus en direct, les thèses là-dessus sont assez claires, d'après ce que disent les experts pilotes consultés, y compris des pilotes de chasse militaires. La thèse là-dessus est assez claire. Des Boeing ne peuvent pas toucher à coup sûr des tours sans être guidé par des balises.
Ah, mais ça, c'est obligatoire.
Voilà.
C'est dans l'évidence même, même en voiture, pour viser un point, si on va à grande vitesse, c'est pas facile.
Avec
un avion, non, mais
circuler à 1000 km/h et être sûr d'atteindre à cette vitesse-là avec un Boeing peu maniable, globalement, peu maniable, et d'être certain d'atteindre une tour, qui est en fait une petite cible dans le ciel, pour cela, il faut des balises. Or, on sait très très bien que l'armée américaine sait parfaitement faire voyager un Boeing ou un avion du même type vide, c'est-à-dire sans pilote, en gros, entre les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, en étant guidé par des balises et en étant téléguidé depuis le sol ou depuis des satellites.
Merci Patrick de ton intervention.
Ben, de rien.
À bientôt.
À vous.
Au revoir, reste à l'écoute.
01 45 75 45 45, c'est le numéro qui reste disponible et qui sonne déjà. Alors Christian, la semaine dernière, Bush a dû accepter la mise en place d'une commission d'enquête sur septembre, il s'y opposait. Avez-vous des informations particulières ?
Pour le moment, non. Non. Non, je n'ai pas vu ça, donc je ne peux pas répondre. Je ne peux pas ni commenter, ni répondre. Ça, je n'ai pas eu cette information-là.
D'accord.
Je ne savais pas.
Smaïn, pas plus ?
Non, pas pour l'instant, non.
Ok. Alors, on accueille Hassen. Hassen, bonsoir. Enfin, bonjour.
Bonsoir. Oui, bonsoir, bonjour.
Bonsoir. C'est une émission intéressante.
Merci.
Allô ?
Oui, oui, on vous écoute, on vous entend.
C'est une émission intéressante. Je suis en partie d'accord avec vous et en partie, je ne suis pas d'accord.
Mmh.
Alors, premièrement, je voudrais aussi poser la question par rapport aux attentats du 11 septembre. Je vais vous mettre sur le tapis aussi la chaîne Al Jazeera.
Ouais.
D'accord. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même important.
Mmh. Mmh.
Bon, moi, j'ai la chance d'avoir les chaînes satellites arabes. Mmh. Donc, je suis tout le temps, en général, les infos Al Jazeera et les différentes chaînes du Qatar.
Ouais.
Pour les chaînes arabes et les chaînes du Qatar et Al Jazeera, qui a quand même des propos virulents anti-américains, qui est quand même une chaîne de télévision très engagée.
Mm-hmm.
Pour eux, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de détails. D'ailleurs, toutes les revendications passent par Al Jazeera. Les attentats du 11 septembre, c'est Ben Laden. Et à la limite même, il justifie sur cette chaîne par rapport aux émissions, par rapport au débat, à la limite, ces attentats sont presque justifiés. Donc, c'est vrai que la thèse du 11 septembre, moi j'ai plutôt ma thèse personnelle c'est que une partie des services secrets américains qui fait partie plutôt du lobby militaro-industriel a laissé faire
mm-hmm.
donc a laissé faire mm-hmm. sur le territoire américain
mm-hmm.
parce que il faut se mettre à la place c'est horrible, c'est ignoble, mais il faut aussi réagir stratégiquement.
Mm-hmm.
Je vais prendre un exemple, par exemple Israël a peur d'une attaque éventuelle de l'Irak par d'armes chimiques, mais je suis sûr que dans l'armée israélienne on attend que ça avec impatience c'est comme vous mettez un dé.
Oui bien sûr. Alors, ouais. il est très très probable.
Hassan, je peux répondre?
Oui.
Oui, bah, je t'en prie, Smaïn, je t'en prie.
Je peux répondre.
Vas-y, vas-y.
Je t'écoute, Smaïn.
Bon, Hassan, moi aussi, alhamdoulilah, je regarde Al Jazeera. Bon, Al Jazeera, c'est une chaîne qui avait un bureau à Kaboul, au moment du gouvernement taliban. Et ils ont assisté aux dernières heures de l'émirat islamique d'Afghanistan. Il s'est passé des choses, les derniers journalistes qui étaient sur place ont filmé des choses dont je n'ai pas le droit de parler malheureusement ce soir à l'antenne. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu des pressions énormes. George Bush est a menacé d'ailleurs de frapper immédiatement le Qatar si jamais il montrait ces images au peuple. Parce que je vais vous en parler quand même. Bon, d'après les informations qu'on avait reçues juste avant que le départ des talibans, les talibans avaient dit qu'ils avaient capturé des soldats américains. Je crois que c'était un petit peu plus de 70 soldats. Ils avaient menacé de les exécuter si jamais les Américains n'arrêtaient pas cette guerre, ce qu'ils avaient commencé, c'est-à-dire cette avancée, les bombardements. Les Américains ont refusé et les soldats ont été exécutés d'après les informations que nous avons reçues, devant les caméras de Al Jazeera.
Combien de soldats? 70?
Un peu plus de 70, oui.
D'accord.
Al Jazeera voulait diffuser la cassette et Bush aurait menacé Al Jazeera en leur disant si jamais vous
vous passez, si jamais vous diffusez le film, je bombarde immédiatement le Qatar. Enfin, le Qatar.
Oui, ça, si, j'avais entendu parler de cette menace, mais je ne savais pas pourquoi.
Voilà, bon, bah, je vous le dis, c'est parce que c'était pour ça. Bon, alors.
Il y a aussi par rapport à ça, je suis en partie aussi d'accord avec Robert sur l'alliance qui est faite entre des groupes islamistes et les États-Unis. D'ailleurs, il y a un très bon livre sur ça. Qui est sorti déjà il y a 3 ans, qui s'appelle l'islamisme, alliance islamiste États-Unis, alliance contre l'Europe. Parce que d'ailleurs, on parle de l'Afghanistan, on parle du 11 septembre, mais on pourrait parler aussi de la guerre en Yougoslavie, de cette guerre aussi en Yougoslavie, en Serbie, qui est aussi une guerre pour le pétrole.
Bien sûr.
Et on peut aussi se demander pourquoi les États-Unis insistent pour que la Turquie rentre dans l'OTAN et l'Europe. Donc, c'est tout incohérent parce que malgré un gouvernement islamiste, les États-Unis ont fait des menaces voilées économiques à l'Europe et à l'OTAN pour pouvoir accélérer l'entrée de la Turquie. Malgré ces élections, en Europe, pour l'Europe et l'OTAN. Alors, par rapport à l'Afghanistan, je voudrais que ça soit clair aussi dans cette émission-là, c'est que les talibans ne représentaient pas l'islam, ne représentent pas les musulmans, et c'est la face la plus obscure de l'islam, bah, de l'islamisme.
D'une façon générale, les Américains.
C'est ta vision personnelle, d'accord ?
C'est pas ma vision
Tu as le droit de penser ça. D'accord. Simplement, sache que ce n'est pas l'avis de tout le monde.
Non, c'est pas l'avis de tout le monde. Je suis d'accord avec toi, mais
excuse-moi. Bon, tu es venu tout à l'heure en disant, par exemple, je reprends ce que tu disais, Oussama Ben Laden aurait revendiqué les attaques. C'est faux. Quand tu écoutes les cassettes, quand tu écoutes, tu vois bien que c'est des montages. Et d'ailleurs, à aucun moment, il n'a revendiqué les attaques. Il a rendu hommage aux prétendus pirates de l'air parce que lui c'est les informations qu'il a. N'oublie pas que Oussama Ben Laden il est isolé, il est en Afghanistan, il n'a pas la télévision, il n'a pas les radios, etc. Et les seules informations qu'il a, parmi les plus grandes informations qu'il a, c'est celles qui viennent des médias. Et donc lui aussi, étant donné qu'il, d'ailleurs, si vraiment il était à l'origine des attentats du World Trade Center, pourquoi les États-Unis auraient besoin de fabriquer des fausses cassettes? Pourquoi les États-Unis auraient besoin de trafiquer les traductions des cassettes de Oussama Ben Laden?
Je sais, il n'y a pas que le 11 septembre. Il y a les attentats à Nairobi, au Kenya.
Nairobi, c'est pareil. Il n'y a aucune preuve. Les États-Unis ont dit qu'ils n'avaient aucune preuve contre Oussama Ben Laden. Ils l'ont dit, franchement.
Et la synagogue de Djerba?
Pardon?
Et la synagogue de Djerba?
Pour l'instant, elle n'a aucun lien avec Ben Laden.
Ah bon? Oui, elle n'a aucun lien.
On n'a aucune preuve que Ben Laden est à l'origine de ça.
D'accord. Je peux pas dire que tu as tort. Tu peux pas me dire que, dans mon opinion, c'est ça le truc de l'histoire, c'est que, comme expliquait la personne,
ce que je veux dire, c'est très important, c'est que même si c'était Oussama Ben Laden, ça ne justifie pas le massacre de tout un pays. N'oubliez pas, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, plus de 40 000 morts sous les bombardements en Afghanistan. Ça ne justifie pas ça.
Je suis complètement d'accord avec toi. Mais ce que je vais te dire à toi, si que tu me dis que les talibans étaient... Ça ne justifie pas, je suis complètement d'accord. Mais si tu me dis que les talibans représentaient un islam correct et...
Mais ça n'est même pas le problème. Mais ça n'est même pas le problème. Mais
que les talibans avaient arrêté la production d'opium. À la limite, oui, c'était un bon gouvernement, les talibans, pour les femmes, pour la démocratie. Quel modèle de démocratie, les talibans? Tu comprends? Les Afghans ont souffert des talibans et après ont souffert de la guerre américaine.
Qu'est-ce que tu connais de l'émirat islamique d'Afghanistan en dehors de ce que t'ont apporté les médias occidentaux?
Mais tu vois là, t'es en train, c'est ce que je t'écoute depuis. Bon, moi je suis d'origine algérienne, d'accord. Je suis d'origine algérienne. Je connais très bien la situation dans le pays d'origine. Je connais très bien les milieux islamistes à Paris. J'ai fréquenté des mosquées, des associations, et je sais par expérience ce que pensent les gens. Je connais leurs opinions. Comme tu disais, il y a différentes. Tu parlais de sectes dans l'islam. Dans l'islam aussi, il y a beaucoup de sectes. Tu es d'accord avec moi que dans l'islam, il y a beaucoup de sectes. Il y a beaucoup 73. De tendances. Allô ?
73.
Ouais, 73. Il y a beaucoup de tendances. Je me situe plutôt... c'est clair, on a posé la question de la guerre en Irak. La guerre en Irak. Je ne comprends pas pourquoi on essaie de faire la guerre à un pays arabe depuis 15 ans qui était le seul pays à combattre l'islamisme. Qui combattait l'islamisme, qui a fait la guerre à l'Iran, qui a perdu énormément, qui a fait la guerre à l'Iran.
Mais contre ce qu'on oublie, bon, puisque tu parles de l'Iran. Alors tous les deux,
si vous le voulez bien, on va rapidement conclure ce dossier.
Ce que je veux dire, c'est que je préfère un Saddam Hussein à un Ben Laden. Et quand on essaie d'associer l'islamisme, on nous dit qu'en Irak il y aurait des Al-Qaïda, mais c'est des conneries, c'est complètement à l'opposé de l'idéologie même du régime irakien. C'est quelque chose que je comprends. C'est quelque chose. Les médias sont en train d'essayer de nous mettre en fin de compte l'Irak dans le même sac que Ben Laden ou que les islamistes.
C'est le but,
je sais pas quoi.
Hein,
alors que ça n'a rien à voir du tout.
C'est pour
ça.
C'est pour ça que tu verras que tu entendras parler longtemps de Al-Qaïda parce qu'on a besoin d'Al-Qaïda. On a besoin de retrouver des membres d'Al-Qaïda dans tel ou tel pays de manière à justifier la campagne internationale.
Alors, merci, Hassen.
Ouais.
Il va falloir qu'on boucle ce dossier tout de suite maintenant.
Non, juste terminé.
Ouais.
Parce que ça, c'était très dur de vous avoir ce soir. Juste un truc, c'est que il y a une chose, c'est que les Américains et l'armée américaine ne frappent jamais là où ça peut faire mal et évitent tout le temps. D'ailleurs, il y a eu une affaire qui est ressortie aujourd'hui et l'ambassade d'Arabie Saoudite a dû justifier. Par rapport à la princesse, une princesse saoudienne, la fille du prince saoudien qui a, je sais pas si vous avez entendu, vous avez écouté un peu les infos, les dernières nouvelles, où de l'argent aurait transité par l'ambassade d'Arabie Saoudite aux États-Unis et était arrivé sur les comptes des pirates de l'air, et ben les Américains ont bouclé ont étouffé l'affaire en no comment. L'affaire a été étouffée là en 2-3 heures. C'est incroyable.
Merci de ton intervention, Hassen.
Hassen est parti. Smaïn,
oui.
On te remercie, on vous remercie d'être intervenu sur l'antenne de radio ici et maintenant. Il commence à se faire tard. On a plein d'autres dossiers à aborder avec Christian Cotet, notamment celui de l'OTS que j'annonce depuis quelques temps. On va m'accuser de faire du teasing. Merci en tout cas de nous avoir consacré du temps.
Merci à vous.
Et à bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir. Alors, Christian, j'avais coupé votre micro.
Tout va bien.
Tout va bien. Vous avez cité à plusieurs reprises tout à l'heure une affaire assez trouble laquelle vous menez campagne, notamment sur l'internet. Il s'agit de l'OTS. Cette enquête donc met en accusation un certain Charles Pasqua. Quelles sont vos preuves?
Vous savez, à certains moments, on ne prête qu'aux riches.
Ouais.
Les dossiers sur ce pauvre homme sont tellement nombreux que il est vrai que beaucoup de gens bien informés ont une certaine propension à considérer que nous avons là un très bel archétype du gangster devenu flic ou du flic gangster. Et c'est vrai que c'est un très bel archétype. C'est une très belle histoire de parrain mafieux devenu ministre de l'Intérieur. C'est une belle histoire pour un roman balzacien. Je ne sais pas s'il y aura un jour quelqu'un qui sera capable de l'écrire. Ça le mériterait certainement. Oui, j'ai pas mal associé Monsieur Pasqua à l'histoire de l'ordre du Temple solaire. Le pauvre homme. Je pense qu'il mourra avant de passer devant un tribunal pour ce dossier-là et quelques autres du même genre. Donc du coup, il ne craint pas grand-chose. Oui, pourquoi est-ce que l'on a associé ce nom-là? Bah, vous savez...
Mais peut-être pouvez-vous revenir...
L'histoire de l'OCS est une histoire extrêmement complexe, mm-hmm. qui s'ancre plusieurs années avant l'histoire des massacres. Nous sommes dans une affaire, là encore, de société secrète, templière, maçonnique. L'Ordre du Temple solaire, c'est une loge templière et maçonnique. C'est un ordre templier, mais c'est aussi une loge composée de très nombreux francs-maçons. Et c'est un système qui servait, qui a servi, qui sert peut-être encore d'ailleurs maintenant, de banque pour un certain nombre de transferts financiers liés à des affaires de trafic d'armes. Et c'est effectivement à cet endroit-là qu'à certains moments, il y a quantité de recoupements avec des dossiers, d'autres dossiers où est impliqué M. Pasqua. L'Ordre du Temple solaire n'a rien à voir avec un suicide illuminé qui se serait jeté dans un feu en criant Alléluia, avec trois ou quatre brindilles de bois mouillé pour se brûler. Nous sommes face à un massacre qui a été savamment organisé, mis en œuvre par des gens tout à fait compétents et vraisemblablement sur ordre de hauts fonctionnaires et d'hommes politiques français. Ça, c'est ce que j'ai écrit et que je confirme.
Alors, pour dissimuler, quel type de vérité? J'imagine que quand vous parlez de Charles Pasqua, c'est pas forcément la personnalité que vous attaquez.
Oh, c'est quand même lui, oui.
Directement.
Ah, oh, bah oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Vous savez, il y a des informations extrêmement précises qui ont été confiées à la justice depuis longtemps, d'ailleurs, elles ont été données au juge Fontaine lui-même. Simplement, le juge Fontaine a répondu à la personne qui lui apportait ces informations. Vous savez, moi, j'ai pour ambition de terminer ma carrière comme procureur dans la ville d'à côté. Alors, m'attaquer à Pasqua, c'est un peu dangereux. Donc, je ne m'attaque pas à Pasqua. Mais les informations, il y a des informations extrêmement précises qui ont été données à ce juge.
De quel ordre?
Des choses très simples, des choses très très simples. Un obscur déjeuner, un jour bien précis, dans une brasserie bien précise, avec des témoins bien précis, un obscur déjeuner de Monsieur Pasqua avec Monsieur Lardanchet.
Qui est-il?
Monsieur Lardanchet est un policier de la police de l'air et des frontières qui a été retrouvé tué dans le Vercors et dont on a dit que c'était précisément lui avec un autre qui avait tiré une balle dans la tête de chacun des autres membres de l'ordre du Temple solaire massacré dans le Vercors avant de se suicider lui-même et de se jeter dans le feu. Or, M. Lardanchet, effectivement, était policier, et M. Lardanchet déjeunait avec M. Pasqua en octobre 94, avant les massacres en Suisse de l'ordre du Temple solaire. Et ça, aucun juge d'instruction n'est allé entendre M. Pasqua sur cette question. Malaise.
Bien qu'entre les mains des juges d'instruction, cette information.
Bien sûr. Alors ça, c'est une information. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres concernant M. Pasqua. Mais là, celles-là sont plus sujettes à caution parce qu'elles ont été écrites, portées à la connaissance extérieure par Di Mambro, grand gourou de l'ordre du Temple solaire. Alors là, évidemment, les informations concernant Pasqua sont plus discutables. Mais il y a d'autres choses aussi. Par exemple, le témoignage d'un des chauffeurs de Di Mambro et de Jouret qui a parlé. On a eu ce témoignage-là notamment dans l'émission de Thierry Ardisson, dans une des émissions de Thierry Ardisson sur l'ordre du Temple solaire, où il était mis en évidence que un des membres de l'ordre du Temple solaire transportait des valises de billets assez significatives. Et puis se rendait en même temps, le même jour, au ministère de l'Intérieur. Voir qui, pourquoi, on ne sait toujours pas. Vous savez, l'ordre du Temple solaire, c'est quelque chose qui est à comprendre d'un point de vue historique dans l'histoire des subtiles relations des fabricants d'armes français avec l'armée française et avec les pays africains, musulmans, acheteurs d'armes. acheteurs d'armes. Le problème qui se pose, c'est que pour l'armée française et pour les technologues français, il y a nécessité de maintenir le niveau de compétence des ingénieurs au plus haut niveau possible, en concurrence avec les États-Unis. Pour faire ça, il faut faire tourner les usines. Pour faire tourner les usines, il faut vendre des armes. Or, officiellement, on n'a pas le droit, de par les accords internationaux, de vendre des armes à certains pays. Mais on est bien obligé de le faire quand même, si on veut faire tourner les usines. Donc, on va faire de la vente semi-légale ou de la vente illégale. Mais semi-légal, parce qu'en fait, l'État est impliqué, il est mouillé là-dedans, les grands marchands d'armes français sont mouillés, les fabricants et puis les marchands aussi sont mouillés. Donc on va faire en fait, le marché de l'armement est un marché semi-légal. Un peu légal, un peu illégal. Et quand il est un peu illégal ou complètement illégal, il faut des systèmes de gestion financière. Et les loges maçonniques et templières sont très très pratiques pour ça. Pour une raison assez simple, c'est que les Africains adorent les loges templières et maçonniques européennes parce que les grands sorciers blancs ont de beaux habits avec des croix blanches, rouges ou vertes, peu importe, et des grands manteaux. Et les sorciers blancs ont beaucoup de pouvoir. Et donc les Africains adorent la sorcellerie blanche représentée par l'ésotérisme templier et maçonnique. Et donc il y a beaucoup de liens avec les loges templières et l'Afrique. Sachant que l'Afrique est un des grands acheteurs d'armes. Hein. En gros, nous vendons à l'Afrique pour autant de milliards de francs d'armement que nous leur donnons de milliards de francs d'aide humanitaire. Donc il y a un lézard quelque part, là. Pour compenser les dégâts, partiellement, les dégâts des armes que nous leur vendons. Donc il y a un vieux délire là quand même de ce côté-là. Et des systèmes comme l'Ordre du Temple Solaire ont servi pendant des années à gérer toute une série de mouvements d'argent divers et variés. Et les dirigeants de cette organisation templière, c'était une minorité spirituelle très structurée, très organisée, très close, et qui méritait certainement le vocable quelque peu péjoratif de secte. Mais on pourrait dire d'une certaine manière qu'il y avait plusieurs niveaux dans l'ordre du Temple solaire. Et puis, il y avait les niveaux les plus extérieurs qui étaient des loges ésotérico-mystico-glandulaires, gentillettes, comme quantité d'autres, avec des enseignants du genre Tabachnik. Et puis, il y avait à l'intérieur des cercles beaucoup plus restreints qui, eux, servaient effectivement, permettaient d'encadrer et de gérer un certain nombre d'individus voyageant autour de la planète avec des valises. Bon, à un certain moment, il y a des gens qui deviennent trop gourmands, qui en veulent un peu plus qu'ils ne sont censés en avoir, qui détournent des fonds à l'intérieur du système de détournement de fonds, ou qui simplement en savent trop. Donc à un certain moment, on brûle des filières. On brûle des filières. Et donc, la filière de l'ordre du Temple solaire, à un moment, il a été décidé de la brûler. Donc vous en... Parce qu'elle elle devenait gênante, c'est tout, point. Donc on l'a brûlée. Et puis comme par ailleurs ça servait aussi à créer une peur panique par rapport aux sectes, ça a permis aussi de justifier le démarrage de la chasse aux sectes. Parce qu'au lendemain du massacre du Vercors, il y a eu des descentes de police chez des chercheurs de haut niveau comme un monsieur Beljanski par exemple, qui a été littéralement massacré par les renseignements généraux, la gendarmerie, la police nationale, un procès, etc. Au motif que ce monsieur avait inventé des produits efficaces contre le cancer, ce qui avait l'air de déplaire, bien sûr, aux grands laboratoires pharmaceutiques. Alors, l'ordre du Temple solaire, ça a aussi permis de justifier la chasse aux sectes derrière. Vous savez, je crois que c'est en 83, c'est-à-dire une dizaine d'années avant les massacres de l'ordre du Temple solaire, un des grands organisateurs de la chasse aux sectes en France, le colonel à l'époque général, aujourd'hui Morin, a écrit lui-même dans un livre qu'il faudrait un suicide de secte pour justifier la chasse aux sorcières.
D'accord.
Alors de là à penser que ce monsieur fait partie de ceux qui ont organisé le suicide, il n'y a qu'un pas, et en ce qui me concerne, j'ai pas tellement d'hésitation à le franchir.
Alors, pour autant, la version officielle reste celle que vous déniez. Est-ce qu'on peut espérer un jour ou l'autre voir éclater, pas forcément votre vérité, mais une vérité par rapport à ce qui s'est passé?
D'ici 15-20 ans, peut-être, oui.
D'accord.
Ouais. Peut-être moins, ça dépend de la pression qu'on arrivera à mettre là-dessus. Oh, c'est, ouais, vous savez, c'est comme toutes les histoires de sang de la Ve République. Pendant que nous travaillons sur le dossier d'Antoine Schuller au mois de janvier, février, un jour, j'ai croisé dans les bureaux de Canal Plus la fille de Robert Boulin, qui m'a parlé des 20 ans qu'elle venait de passer pour tenter de faire reconnaître le fait que son père avait bien été assassiné et qu'il ne s'était pas suicidé dans une mare d'eau. On a le même genre de scénario, hein, avec des échelles un peu différentes, mais avec le Vercors et les 16 morts du Vercors, sans compter tous ceux de Suisse et du Canada, dans le Vercors, on a essayé de faire croire que les gens s'étaient brûlés avec des brindilles de bois mouillé, ce qui est complètement délirant. La réalité plus vraisemblable, enfin, qui est assez fortement argumentable aujourd'hui, c'est que tout simplement ils ont été brûlés avec du phosphore et donc des lance-flammes de l'armée militaire. Ça, c'est la thèse de l'expert Lavoué qui a été mandaté par un des avocats des familles des victimes sur cet aspect-là des choses. Dans le cas de Robert Boulin, on a essayé de faire croire qu'il s'était noyé dans un verre d'eau. On est à peu près dans le même genre d'opération.
Et hormis vos propres investigations, en existe-t-il aujourd'hui, suivant des voies un peu plus officielles ou pas ?
Non. Non, le dossier est gentiment enterré. D'autant que aujourd'hui, l'obédience maçonnique la plus impliquée dans ce dossier, à savoir la Grande Loge Nationale de France, est aussi celle qui est la plus impliquée dans le gouvernement actuel. Donc, pour l'instant, on ne risque rien.
Alors précisément, on continue de dérouler le fil de la toile, du web, où on a un aperçu de votre personnalité complexe au travers de l'ensemble des dossiers, aussi divers soient-ils que vous gérez. Vous dénoncez souvent les francs-maçons, au point même de propager que Jacques Chirac, vous parliez de l'État français, nous y semble.
Je propage rien, il y a plein de gens qui propagent ça.
Moi, enfin, vous particulièrement.
Je reformule.
Chirac serait membre d'une loge Alpina.
Ça serait une loge suisse, d'après ce que je sais. C'est une loge suisse. J'en sais pas grand-chose, mais vous savez, moi je reformule beaucoup. Le métier de psychologue ou de psychosociologue, ça consiste à écouter attentivement. Je parle beaucoup, mais j'écoute aussi beaucoup. J'ai appris ça dans mon jeune temps. Et j'écoute, je prends des notes, je reformule, je synthétise et je renvoie la reformulation. Et j'écoute l'écho de la reformulation et puis je recommence. Je fais que ça, globalement. Simplement, il se trouve qu'il y a des tas de gens qui viennent me raconter leur vie, leurs histoires et leurs aventures. Quand je prends des notes et que j'ai appris à écrire vite, voilà.
Alors
La loge Alpina, c'est un détail, cette histoire-là, mais ça a été écrit à des tas d'endroits, et puis apparemment, ça a été dit très clairement devant, je crois, Alain Boer, le grand maître du Grand Orient, qui est censé être bien informé et qui n'a pas... dit le contraire.
Alors, si ça se révélait juste, qu'est-ce que ça pourrait impliquer en termes de
politique ? Ça prouve rien. Ça prouve simplement que l'État français, enfin les institutions de la République, sont utilisées par des réseaux occultes, où les membres de ces réseaux sont tenus à une solidarité fraternelle par serment. Et que cela distord le jeu normal et naturel des institutions. C'est ça que ça prouve. La problématique qui se pose avec la franc-maçonnerie, moi je n'ai rien contre les francs-maçons, là encore, pas plus que je n'ai quelque chose contre les Américains. La problématique de la franc-maçonnerie, c'est la problématique du secret et du serment maçonnique. Qui est une espèce de perversion intellectuelle et psychologique dans la vie normale d'une démocratie. En temps de guerre et en temps de crise, c'est autre chose. Mais la franc-maçonnerie n'arrive pas à se sortir de ce truc-là. Et ils sont pas bien avec ça, d'ailleurs. Ça commence à poser quand même sacrément problème. Parce que aujourd'hui, si vous vous présentez devant un tribunal, que vous n'êtes pas franc-maçon, que moi je le suis, ce qui n'est pas le cas, et que le juge que j'ai en face de moi est franc-maçon, et que les deux avocats des deux parties sont franc-maçons, c'est-à-dire le vôtre, sans que vous le sachiez, le mien, ben, moi je le sais, le juge le sait, les avocats le savent, quoi que je vous ai fait, vous avez perdu. Tout simplement parce qu'il y a un engagement de solidarité maçonnique qui est plus fort que n'importe quel autre engagement. y compris le serment du magistrat. Et la réalité démontre ça, mais tous les jours, il y a des dizaines de dossiers, notamment dans les tribunaux de commerce, où quantité de chefs d'entreprise se font bananer, se font voler, se font escroquer, poussés au suicide, certains sont poussés au suicide par des histoires absolument invraisemblables, où il y a des dénis de justice tous les coins de rue, tout simplement parce qu'on a en face un réseau maçonnique, provincial. C'est terriblement vieille France, vous savez, ces histoires-là. C'est vieille France, c'est infantile aussi. En gros, c'est l'âge de 8-9 ans, quoi. Hein. On joue avec des codes secrets, des rituels, des capes, des épées. Alors, je suis pas en train de casser complètement l'enseignement philosophique de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a un enseignement philosophique qui est d'une grande richesse, et qui est très beau, et qui a beaucoup de valeur, et que je respecte complètement, aussi bien que, j'allais dire, quantité d'autres enseignements philosophiques, d'ailleurs. Hein. C'est pas là la question. Simplement, il y a une pratique qui a connu depuis 20 ans, 30 ans, peut-être plus, j'en sais rien, des dérives terrifiantes. 90% des affaires politico-financières aujourd'hui sont liées à des affaires de franc-maçonnerie. 90%. Et là, il y a un gros problème. Et c'est ce qui me fait écrire qu'il y a nécessité aujourd'hui de séparer l'État français de l'Église maçonnique. Parce que c'est une Église comme une autre. Alors, il y a un siècle, on a bien réussi à séparer l'Église catholique de l'État. Alors, c'est vrai que l'Église catholique, sa place a été prise derrière par la franc-maçonnerie. Sans doute avec des résultats intéressants, d'ailleurs. La franc-maçonnerie a apporté certainement l'histoire de la République. C'est indéniable. Et il y a eu de grands francs-maçons qui ont apporté quantité de choses en direction de plus de démocratie, d'humanisme, de respect des femmes, etc. Enfin, il y a plein d'apports. Il ne s'agit pas de nier tout ça. Hein. Simplement, il y a une relation qui est perverse à l'État.
Donc rien de plus à nous apprendre parmi ce que vous avez pu retranscrire concernant cette fameuse loge alpine.
Non, parce qu'honnêtement, je m'en fous un peu.
D'accord.
Enfin, je veux dire, oui, ça m'est égal. Simplement, ça démontre que il y a l'envers du décor et que l'envers du décor, précisément, n'est pas ce qui nous est présenté sur la scène. Ça, c'est extrêmement gênant parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus qui dirige qui et quelles sont les règles. Et donc une démocratie ne peut pas fonctionner comme ça.
Alors, autre dossier qui nous éloigne complètement des attentats du 11 septembre, alors peut-être pas, vous allez nous expliquer pourquoi, vous confiez également, vous intéressez aux supposées expérimentations atomiques souterraines qui auraient lieu en France, à l'étranger. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cela?
Écoutez, ça c'est un nouveau dossier sur lequel je commence à me pencher sérieusement depuis quelque temps, au travers d'un dialogue d'abord par Internet et puis maintenant de vive voix avec un astrophysicien, directeur de recherche au CNRS qui s'appelle Jean-Pierre Petit, que c'est un monsieur aussi peu fréquentable que je le suis, donc du coup nous pouvons nous fréquenter mutuellement, c'est plus facile entre gens infréquentables. Et Jean-Pierre Petit raconte des histoires assez drôles, ouais. Oui, il raconte des histoires assez drôles. Je crois que vous le recevez la semaine prochaine ou dans 15 jours. Enfin, je sais pas si
le 3 décembre, il sera,
Il sera là sur Ici et Maintenant.
Il a déjà eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises.
C'est pas la première fois. Oui, il raconte une expérience qu'il a vécue il y a 2 ans de ça, je crois, à l'occasion d'une soirée, d'un dîner informel, enfin d'une soirée chez un... C'est un avocat de sa région, il habite Aix-en-Provence, il enseigne, il travaille à Aix-en-Provence. Et Jean-Pierre Petit raconte une conversation assez surprenante qu'il a eue avec un ancien haut fonctionnaire du CEA, qui a effectivement témoigné du fait que le CEA faisait un certain nombre d'expérimentations souterraines, nucléaires, dans la région PACA. Depuis 10 ans, il y a effectivement un certain nombre de manifestations de basse fréquence, totalement inexplicables par d'éventuels tremblements de terre ou d'éventuels bangs supersoniques. Il y a un certain nombre de manifestations de basse fréquence parfaitement perceptibles par la population. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on a ça en région PACA. Il y en a eu encore très récemment. Il y a eu des articles donc dans les journaux régionaux sur... la pression de Monsieur Petit, et la seule explication que l'on ait pour l'instant, ce sont effectivement des explosions souterraines, qui sont parfaitement possibles sous les mines de Gardanne, notamment.
D'accord. Vous avez techniquement quelques...
Pour l'instant, moi, j'ai pas encore de preuves complètement formelles de cela. J'ai le témoignage de Monsieur Petit et surtout le témoignage du haut fonctionnaire du CEA qui a été enregistré, enfin pas enregistré, mais qui a été... écouté, entendu par plusieurs témoins parfaitement dignes de foi, dont l'épouse de M. Petit et un pilote de Concorde. Ça date de l'été 2000. Ces témoignages-là sont extrêmement clairs. Il y a eu derrière cela un procès, etc. Évidemment, puisque les gens du CEA ont cherché à se défausser sur ce dossier. Bon, et puis c'est dans la logique de la culture du CEA et de la culture des militaires atomistes français. Personne ne pourrait comprendre que les essais se soient véritablement arrêtés. Et quel est le rapport avec le 11 septembre? Il n'y a pas de rapport direct, sauf que la France et les États-Unis sont bien en concurrence au niveau technologique, scientifique et militaire depuis 1945, et que la culture gaullienne, souverainiste d'un certain nombre de militaires atomistes est encore bien présente, et que ces gens-là n'ont strictement aucune raison d'arrêter les essais nucléaires. C'est pas parce que M. Chirac a dit on arrête tout, qu'on va réellement le faire. C'est pas la première fois dans l'histoire de la bombe atomique française qu'un certain nombre d'expériences sont faites en dehors de tout contrôle parlementaire et de tout contrôle de la démocratie souveraine. Ça, c'est très clair. Les militaires français se sont affranchis du contrôle démocratique depuis 50 ans et peut-être plus longtemps encore, et ça c'est pas nouveau. Ça c'est pas nouveau. Donc si vous voulez, moi je m'intéresse bien au dossier parce que j'estime que M. Petit est un être intellectuellement fiable et intellectuellement indépendant, et donc je fais a priori complètement confiance dans la qualité du témoignage dont il m'a fait part, qu'il a d'ailleurs exposé à une époque sur Internet. Il a repris récemment un article sur ce dossier-là. Alors bien sûr, pour l'instant, il nous faudrait des preuves plus palpables, mais nous avons de très forts soupçons, et puis une évidence de cohérence avec la culture que l'on peut connaître par ailleurs, lui de son côté et moi du mien, avec la culture des militaires du CEA, une telle évidence de cohérence avec de tels essais que ce serait le contraire qui serait surprenant, en fait.
Donc là, ce que vous nous annoncez, on peut s'attendre en tout cas à une collaboration sur ce dossier entre vous et Jean-Pierre Petit?
Ah bah bien sûr, oui, ouais. Enfin, j'espère, en tout cas, nous avons rendez-vous pas plus tard que d'ici 8-10 jours, un peu plus de 10 jours, nous avons rendez-vous pour travailler là-dessus avec quelques-uns de mes amis et lui, oui, bien sûr.
Alors bien sûr, on peut rappeler aux éditeurs de radio ici et maintenant le site internet de Jean-Pierre Petit, www.jp-petit.com. Je crois d'ailleurs savoir, je ne sais pas si ça a été mis à jour ou pas actuellement, que sur son site, il y aura un appel à témoignages de personnes qui auraient ressenti précisément
les effets de ces explosions.
Voilà, oui. Les effets de ces explosions.
Oui. Sans vouloir faire ma pub de manière inadéquate, je me permettrai aussi de citer l'adresse du site
votre
de Politique de Vie,
oui.
Qui est tout simplement www.politiquedevie.net, en un seul mot, sans point, sans rien du tout, politiquedevie.net. Ça permet d'avoir accès à l'essentiel des dossiers que nous avons évoqués ce soir.
Alors justement, on va se permettre un petit détour. Politique de Vie, c'est un parti politique à l'origine, sous l'impulsion d'un bouquin que vous avez publié, en collaboration d'ailleurs, en 1994.
Oui, avec mon ami Nicole Millet.
Voilà, Nicole Millet. Ça a fait l'objet, ce parti politique a fait l'objet d'une liste aux européennes,
Nous avions monté une liste aux européennes en 1994, nous avons commencé en 1999, et puis nous recommencerons en 2004.
D'accord, c'était la question que je souhaitais vous poser.
Ouais,
est-ce que politique de vie continue son combat public?
Nous sommes en fait un très petit noyau de militants très actifs, je crois d'un assez bon niveau de compétence sur un certain nombre de dossiers. Il y a Joël Labruyère sur les dossiers sectes, il y a Éric Dietrich sur les dossiers pédophilie, qui sont des gens d'excellent niveau, il y a Jean-Pierre Joseph, il y a d'autres amis encore. Autour de nous, nos réseaux respectifs. Politique de Vie est un parti tout petit et qui risque fort de le rester très longtemps. Tout simplement parce que nous ne souhaitons pas devenir, nous ne souhaitons pas qu'il nous arrive ce qui est arrivé aux Verts en l'espace de 20 ans, c'est-à-dire une implosion, explosion et dégénérescence et intellectuelle et idéologique et programmatique et politique liée au fait que ce type de parti à pseudo-démocratie interne en fait passe l'essentiel de son énergie dans des batailles internes et pas dans l'action public. Donc, en ce qui nous concerne, plus petits nous sommes, plus efficaces nous restons et nous demeurons. Donc, nous resterons tout à fait un groupe de militants, un petit groupe de militants. Nous espérons devenir grands par la qualité des dossiers sur lesquels nous travaillons et des pressions que nous réussissons à exercer sur tel ou tel gouvernement, ministère, ministre, fonctionnaire pour faire avancer un certain nombre d'idées. Ça nous suffit bien pour le moment. Et puis, le jour où nous aurons les moyens, si nous les trouvons, nous développerons d'autres structures. Vous savez, jouer dans le champ du politique est un jeu extrêmement complexe qui demande beaucoup d'argent. Et ça, moi, je ne sais pas faire pour le moment, trouver beaucoup d'argent. Je ne sais pas faire, donc je fais ce que je sais faire, c'est-à-dire écrire.
Très bien.
Ce qui est déjà pas mal, et parler.
Alors Christian Cotten, on ne va pas prétendre en 3h30 avoir fait le tour, même si on a abordé un certain nombre de dossiers. Il est vrai qu'on s'est un peu attardé sur le dossier du 11 septembre, mais bon, on ne va pas prétendre avoir fait l'ensemble de ce qui détermine, de ce qui définit votre personnalité extrêmement complexe, controversée. Vous avez parlé là du combat que vous aviez au sein politique de vie, pardon, oui, excusez-moi, moi aussi je commence à être fatigué, accompagné d'amis. Pourtant, vous-même, l'homme, Christian Cotten, qu'est-ce qui vous fait avancer?
Bon, vous savez, moi je suis un sale gamin qui adore dire tout haut ce que les autres disent tout bas. Voilà, donc je m'amuse, moi. Des fois, je suis obligé de respirer un peu. Je suis obligé de respirer un peu parce que c'est des jeux pas très faciles. Mais oui, je m'amuse bien, ouais. Ouais, je m'amuse bien, ouais.
Alors, en forme de synthèse, est-ce qu'en parlant de vous, on peut évoquer le fait que vous soutiendrez une sorte de théorie du complot permanent?
Non, certainement pas. Non, j'aime pas trop cette expression parce qu'elle renvoie à une vision très manichéenne, dichotomique et paranoïaque du monde. Ce que je crois simplement, c'est que les grands systèmes internationaux, planétaires, sont soumis à des jeux de pression de systèmes divers et variés, de lobbies divers et variés. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de parler de complot permanent. De toute éternité, les êtres humains fonctionnent par groupe, par tribu, et chacun dans son coin définit des objectifs, des stratégies et des moyens d'atteindre les étapes d'une stratégie pour atteindre un objectif. Alors, si c'est ça qu'on appelle un complot, moi je veux bien. Toute armée, tout État, tout groupe politique fonctionne à différents niveaux de réalité, réalité visible, réalité cachée. Et fonctionne en fonction d'une analyse stratégique de situation, une définition d'objectifs et puis des chemins pour atteindre les objectifs. Bon, voilà, alors, complot quand les objectifs sont cachés, oui, peut-être, pourquoi pas. Mais, point, enfin, ça s'arrête là. Je veux dire, c'est ce que j'essaye simplement de faire, c'est de donner une lecture qui ne soit pas simplement la lecture naïve, médiatique, niveau culturel moins 15, quoi.
Donc vous vous défendez d'avoir sur le monde une vision proprement manichéenne?
Vous savez, je crois que la construction de la paix observable dans la réalité quotidienne de tous les jours et de la paix sur la planète, ça passe d'abord par la construction de la paix à l'intérieur de chacun de nous. Et donc, lorsque l'on entreprend ce genre de réflexion et de démarche, on est bien obligé de se rendre compte que chacun de nous porte la guerre en lui-même. Donc, vouloir la mettre uniquement chez les autres est une vaste illusion lyrique. Moi, mon job, c'est de tenter d'apaiser des choses. Si je veux tenter d'apaiser des violences qui sont celles que j'observe au quotidien dans la tête ou dans le cœur ou dans l'estomac des gens que je peux recevoir en entretien individuel ou que j'ai pendant longtemps reçu, je pratique moins ces temps-ci. Si je veux apaiser ces violences et ces souffrances, et si je veux être capable d'accompagner les gens qui sont là-dedans, ça implique que j'ai moi-même fait un minimum de chemin.
si on disait de vous que vous aspirez à une société plus transparente, moins corrompue, plus juste, est-ce que c'est un bon résumé?
Oui, on pourrait dire ça, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Christian Cotten, une conclusion peut-être?
Bah, dans l'email que j'ai envoyé ce soir à mes correspondants habituels, pour les informer de notre émission, je disais une chose, j'évoquais les différents sujets que nous avons effectivement traités ensemble, du 11 septembre à ce dernier dossier sur les expériences nucléaires souterraines en France. J'évoquais tous ces dossiers, et puis je disais aussi que je parlerais sans doute de la beauté de la vie et de l'amour en tant qu'antidote à la folie guerrière des êtres humains. La conclusion, elle sera peut-être de ce côté-là. Certains jours, je suis un guerrier, parfois violent, sur le plan symbolique et sur le plan des mots, et j'assume très tranquillement cette violence-là, parce que je pense qu'elle est indispensable pour mettre des frontières à certaines folies. Maintenant, le véritable antidote à la folie, ça reste effectivement l'amour.
Christian Cotten, merci.
Merci.
À très bientôt, au revoir. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2. Nous étions ensemble depuis 23h20. Vous avez suivi Bruno Heuzé et vous avez entendu longuement s'exprimer sur cette antenne. Je le vois, il est fatigué, Christian Cotten, depuis 23h20. Nous vous remercions tous de votre écoute. Nous sommes désolés de ne pas vous avoir fait passer plus nombreux, mais vous l'avez remarqué. La richesse de notre invité, en tout cas en termes de complexité, nécessitait qu'on le laisse s'exprimer le plus longuement possible. Merci encore de votre écoute. À plus tard.